Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Un succès 3-1 au Parc face à Nice. Et donc, Paris affrontera en demi-finale à domicile Rennes le 3 avril. L'autre demi-finale, ce sera la veille OL contre Valenciennes. Nous allons débriefer cette rencontre. Avoir un œil également attentif sur les derniers quarts de finale de Ligue des Champions avec la qualification de Dortmund. Pour l'heure, le dernier quart de finale entre l'Atlético et l'Inter. Eh bien, les deux équipes en sont aux prolongations, égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Présentation du soir, le président, c'est l'élégant de l'équipe du soir, Johan Micou. Bonsoir, président.
Bonsoir.
Il y a eu un shopping, il y a eu un coiffeur, il y a eu beaucoup de choses.
Président. Longue journée.
Longue, très longue journée. Vous êtes magnifique. Le président est exténué. Pas de changement de coupe de cheveux, mais un sweatshirt magnifique. J'ai nommé Jérôme Alonso. Bonsoir, Mathilde Boulet.
Sweatshirt.
Sweatshirt.
Ok.
Vous dites sweat?
Sweat. Non, mais je sais pas.
Hein? Sweatshirt.
Sweatshirt.
Sweatshirt. Anglais, première langue.
Ah oui.
Ouais.
C'est mieux, non?
C'est
mieux.
Ouais. Bon, okay. La hyène de l'équipe du soir aussi est tenté un truc. La chemise en jean. Bonsoir, la hyène.
Moi, j'ai passé 3 heures chez le coiffeur. J'espère que ça se voit quand même.
On va monter encore un peu en gamme. Ouais. Regardez ce maillot jaune qui déboule sur le plateau de l'équipe du soir. C'est Pia Clément. Bonsoir, Pia.
Super. Salut tout le monde.
Alors, qui est ce monsieur qui a une dentition qui m'effraie un peu?
C'est Holder T-Bastard.
Comment?
Chimichimiyo, chimiyem, chimiyé. Un rappeur, quoi.
Ah, ouais.
Tu rappelles? Oui. Ouais. Le dernier truc en musique qu'il écoutait, c'est Michel Sardou. Donc,
il y a un peu de marge. Non, le gars, c'est un banger. Moi, je suis choc-barre à chaque fois que j'écoute ces trucs. C'est placé. Attention, mon petit Nabil Jelit, le Fennec est dans la place.
Bonsoir.
J'ai essayé un truc. Quoi.
Moi, c'est aussi un rappeur, c'est Booba, c'est Garde la mèche.
Hein? Garde la mèche. Garde la mèche. Garde ta vanne. Ouais. Merci. tiens, j'ai oublié les thèmes parce qu'on s'est tellement amusé.
Ah, parce qu'il y en a.
Le journal du Hard dans quelques minutes. Je sais qu'il attend son jingle. Est-ce une qualif qui prouve que Paris a progressé? On en débattra. Qui est le meilleur Parisien ce soir? Mbappé, quelle note? Boulka qui termine le match avec le nez cassé après un petit chaos. Est-ce que c'est incompréhensible? Lucien qui compose et Irémé arrière droit. Était-ce une erreur? Maintenant, vous avez les thèmes. On va commencer par le résumé du match. 3-1 pour Paris. Les images avec Romar.
Bonsoir Mémé. Effectivement, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 face à Nice en quart de finale de la Coupe de France avec un premier but signé Mbappé. Regardez, superbe 1-2 dans la surface avec Fabian Ruiz. Et c'est le 35e but de la saison pour Kylian Mbappé. Le PSG qui va doubler la mise sur cette erreur de Marcin Boulka, son ancien gardien, qui va permettre à Ousmane Dembélé de servir Fabian Ruiz. Ça fait 2-0 à la 33e minute.
Il est grand.
Un festival de Jérémy Boga sur le côté gauche. Et le ballon qui va arriver sur Gaëtan Laborde, ça fait 2-1. Juste avant la mi-temps, les Niçois qui ont fortement poussé juste avant la pause. Oui. Mais le but du break, il est signé Beraldo de la tête. Il n'est pas hors jeu car c'est Dante qui l'a remis en jeu et qui a dévié ce ballon. Donc le PSG s'impose 3-1 et qualifié affrontera Rennes le 3 avril en demi-finale.
Ouais. Des temps forts, des temps faibles, des temps forts à nouveau. Est-ce une qualif qui prouve que Paris a progressé? Habillage à la parisienne, allons-y mes amis. Pierre, oui ou non?
Oui.
Oui. Nabil?
Un petit oui.
Un petit oui. Jérôme?
Allez, non.
Non. Monsieur Moiti?
Non.
Non.
Voilà, je savais, c'est pour ça.
Attention, Didier Roustan vous surveille, mon cher président. Allez-y, envoyez la soudure.
Jingle.
Bon, bah, oui.
Je pique le cahier.
Fantastique, c'est fantastique. Pia et Nabil, le grand oui commence par rapport au petit oui, c'est ça?
Donc j'ai piqué son cahier, donc comme ça j'aurai des arguments.
Donc c'est Pia.
Elle a une très belle écriture, j'adore ce que tu fais, c'est de la calligraphie quasiment.
Oui, vous n'avez pas totalement répondu à la question, oui. J'espère que vous serez meilleur dans votre super duel. Oui ou non, qui commence?
C'est Pia.
C'est Pia qui commence, ok. Temps, hein, Jérôme ou Étienne?
L'expérience d'abord, la fraîcheur après.
L'expérience. C'est Étienne qui comptera. Est-ce une qualif qui prouve que Paris a progressé? Oui, Pia Clément, on vous écoute, vous avez autour de 30 secondes, allez-y.
C'est pas une qualif qui prouve qu'on a progressé dans le résultat, parce que c'est finalement normal qu'on passe en demi-finale de Coupe de France parce qu'on est le Paris Saint-Germain et qu'on est plus riche. Donc voilà. Par contre, moi, ce qui m'a énormément plu, c'est le contenu, notamment pendant les 35 premières minutes. Il y a eu aussi des périodes en seconde mi-temps où j'ai trouvé ça vraiment très, très convaincant, avec des passes courtes à 3, à 4, que j'ai beaucoup aimé voir. J'ai aimé ce football, en fait. J'ai beaucoup aimé la connexion Fabian Ruiz-Kylian Mbappé, qu'on n'a pas tant vu que ça à ce niveau-là, cette connexion avec ces deux joueurs-là. Il y a des petites choses à redire, notamment en défense, mais globalement, j'ai trouvé que les joueurs avaient l'air frais, avaient l'air sereins et étaient jouer en bon football.
Merci beaucoup. Pensez à Nabil un peu, Pierre. Bah oui, oui, vous êtes servi allègrement au buffet. Étienne Moiti est prêt à dégainer. Top départ, Étienne.
Non, moi, très sincèrement, je n'ai pas trouvé de progrès particulier dans le jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais quel Paris Saint-Germain ? Parce que franchement, je m'y perds avec les compositions de Luis Enrique. J'aimerais pour qu'il y ait des progrès, qu'il y ait déjà au moins un petit peu de continuité dans les compositions et dans le système de jeu. Franchement, Dembélé au centre du jeu, comme on l'a vu très souvent, c'était quand même une très, très grande force du PSG quand il était à droite. Comme l'a dit Pia, qui finalement est un peu d'accord avec nous, la défense a été catastrophique pendant absolument tout le match. Franchement, j'ai rien vu de particulier face à ce qui est peut-être aujourd'hui une des pires équipes de Ligue 1 depuis 2024.
17 secondes, 6 dixièmes. Prouvez-nous que Paris a progressé ce soir, Nabil.
Évidemment, tout n'a pas été maîtrisé. Mais si on est en Bundesliga et on voit un tel déséquilibre assumé, on dit que c'est fantastique, mais comme c'est le Paris Saint-Germain, on critique. Et puis, moi, je trouve que Mbappé à gauche, c'est intéressant. Je découvre ça. À défaut de renouveler son contrat, on pourrait renouveler ça.
Ok, Jérôme Alonso, que dit la maison Alonso ?
Nabil découvre au bout de 7 ans que Mbappé à gauche, c'est intéressant. C'est bien. J'achèterai l'abonnement au Fantine Télévision. Mais le meilleur parisien ce soir, c'est encore Donnarumma. Je suis désolé. Donc, si le meilleur parisien, c'est Donnarumma, ça veut dire qu'effectivement, Paris a encore souffert contre effectivement une des pires équipes de Ligue 1 actuellement. Et donc, dans ce process là, ben, je vois pas de progrès côté Paris. Quand ils se font rentrer dedans, ils ont du mal. Et là, c'était pendant une demi-heure. Et encore une fois, merci Donnarumma.
Il vous reste 4 secondes et
un dixième. Ils sont éliminés, ils ont été neutralisés, ils n'ont pas marqué de but le Paris Saint-Germain ce soir. Ils ont mis 3. Comme moment, faut être sérieux, quoi.
6 dixièmes de seconde pour la paire Alonso Moiti.
On parle des progrès effectués par rapport à d'habitude.
Il faut qu'ils gagnent 6-1, quoi, en fait. Ils peuvent pas gagner 6-1, c'est pas du tennis, hein.
Nabil, attention,
en fait,
Jérôme, attention mes petits.
Bah, y en a gagné 8.
Et rappelons simplement qu'il n'y aura pas de coupure pub à 30, donc on est jusqu'à minuit, donc en intégrale débrief du Paris Saint-Germain. Merci la régie, le site, l'équipe va rugir de plaisir. Est-ce que Paris a progressé ? Si c'est oui, Nabil et Pia. Si c'est non, c'est Étienne et Jérôme. Patron, c'est votre tournée.
Oui.
Bon.
Non, mais j'ai vu une bonne première demi-heure. Après, les progrès, moi, je les attends sur 90 minutes et je trouve pas qu'on arrive à ça du côté de Paris. Après, face à l'adversaire, c'est vrai que Nice est pas très en forme en ce moment.
Avant-dernier de la phase retour.
Oui, donc.
De Ligue 1.
C'était un minimum. Mais je trouve que c'est trop en dents de scie encore régulièrement et qu'ils arrivent quand même à se faire peur avec. Une première demi-heure aussi bien maîtrisée de leur côté. Donc ça reste un peu improbable et je ne vois pas où c'est qu'il y a tant de progrès que ça par rapport à cette qualif.
En fait, j'ai dit que la première demi-heure, quand même, ils les ont asphyxiés. Oui. Ils auraient pu plier le match. Ce qui est étonnant, c'est surtout qu'ils s'effondrent sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps.
Moi, ce qui me dérange avec ce PSG depuis pas mal de saisons, c'est la continuité dans leur match. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas. Et là, pour moi, s'il y avait eu 90 minutes comme la première demi-heure, j'aurais dit oui, il y a un vrai progrès. Mmh. Même s'il y a des changements de poste de certains joueurs, etc. Oui, etc. Mais après, moi, je ne suis pas comme Étienne en disant il faudrait que ça soit toujours pareil. Mais voilà.
Vous avez demandé juste
après,
un peu
j'aimerais
de
juste savoir. Ouais. Ouais, moi, j'aimerais juste savoir quelle est l'idée de Enrique, par exemple, de mettre Zaïre Emery arrière droit. Est-ce qu'un jour, dans un match, gros match de Ligue des Champions, on va avoir droit à ça? Je ne suis pas sûr. Donc, c'est assez étonnant, en fait.
C'est pas, alors, l'expression collective du Paris Saint-Germain, évidemment, pas celle de Manchester City.
Mais je ne changerai pas d'avis, Nabil.
Non, mais c'est juste pour la polyvalence. Quand c'est certains qui le font, c'est fantastique. Alors, évidemment, il a été en difficulté face à Boga, qui est un joueur de déséquilibre. Quand il est en forme et quand il a des cannes, il ne plie pas que Zaïre Emery. Hein.
On a un débat sur Zaïre Emery, mais ouais, si vous voulez le faire tout de suite.
On peut aussi lui donner crédit de travailler sur d'autres trucs, la polyvalence.
D'autres entraîneurs le font. Préparer la saison prochaine, c'est ça l'idée.
Je dis ça tranquillement.
Non, mais la question, c'est que tu prépares pourquoi ? Pour vraiment quand tu vas faire des gros matchs.
Ou alors,
parce que demain, on va voir Zaïre Emery à droite, je ne suis pas sûr sur un gros match de Ligue des Champions.
Ou alors, c'est un message envoyé à sa direction pour la saison prochaine. Il me faut un latéral droit derrière Hakimi.
Ça, c'est le
Luis Enrique
il fait passer que des messages pour la saison prochaine. En fait, cette saison, ça l'intéresse pas. Aller gagner la Coupe de France, essayer de briller en Ligue des Champions, ça l'intéresse pas du tout.
Pia, je vous ai écouté attentivement, comme d'habitude, vous allez me dire.
Et longuement.
C'est dégoûtant, ça.
Est-ce que vous avez raconté le match ? Est-ce que vous avez raconté le match ou vous avez raconté les 33 premières minutes ?
Dans mes 30 secondes ?
Bah, dans votre temps à partie.
Non,
j'ai eu l'impression que vous avez été complètement.
C'est le tiers payant.
Excusez-moi, je perds mon oreille. Non, mais complètement.
Non, en fait.
Impressionné par le début de match, les 33 premières minutes magnifiques de Paris.
Il a pu y avoir des matchs dans cette saison où on a gagné et où le contenu n'a pas été fantastique. Ça est arrivé quand même pas mal de fois.
Oui.
Là, sur les 35 premières minutes et certains passages de la deuxième mi-temps, il y a des moments où c'est du très bon football.
Ah, c'est vertigineux.
Et en tant que, je pense que les gens qui étaient au Parc des Princes, moi qui étais comme un saumon dans une rivière en train de remonter le courant avec que des gens autour de moi qui râlaient, qui critiquaient le Paris Saint-Germain, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir en regardant jouer mon équipe.
Tu peux préciser qui était là ou pas, c'est important pour
nous. On aura les
deux. Moi, j'apprécierais donc les changements qui sont opérés par Luis Enrique. J'apprécierais les plans B, les plans C, etc. Comme peut le faire par exemple Guardiola avec Manchester City, où il y a un système qui fonctionne extrêmement bien. Tu peux changer un joueur pour un autre et ça va toujours être retrouvé à la fin. Mais ce Paris Saint-Germain, le plan A, à ce moment-là de la saison, je le connais pas toujours très bien, donc j'aimerais qu'il insiste déjà sur le plan A pour qu'on puisse éventuellement ensuite pouvoir décliner. Mais pour l'instant, il n'y a pas une équipe type qui se dégage. Pour l'instant, il n'y a pas un système de jeu très clair qui se dégage. J'aimerais qu'il soit installé avant.
Je crois qu'il y a la réponse à vos interrogations.
Ouais. Je pense que pour essayer de comprendre ce que fait Luis Enrique cette saison, je parle pas de la saison prochaine parce que là, ce sera différent, mais cette saison, il faut prendre un peu de recul. Il faut voir un peu le tableau large. Si tu réfléchis match par match, effectivement, tu vas te dire pourquoi on a Warren Zaïre-Emery en latéral droit. C'est pas logique, c'est pas à son poste. Et voilà. Si tu réfléchis sur un plan large, tu comprends qu'il essaye de faire passer un message à l'équipe pour l'avenir, à savoir, si tu n'es pas à 100%.
Attends, Pierre, l'avenir, c'est quoi? C'est le quart de finale de Ligue des Champions.
Ouais. Si tu n'es pas à 100%, tu ne joues pas. D'accord? Hakimi, il n'est pas à 100% en ce moment. Donc ce soir, il n'a pas joué. Alors que, normalement, à son poste, il est largement le meilleur dans l'effectif. Alors qu'il y avait Mukiele, mais c'est pareil, même message.
Et pourquoi c'est pas, par exemple, Mukiele, il joue jamais. C'est-à-dire que s'il y avait un système donc efficace, qui est bien installé, etc., je comprendrais cette logique-là de dire, écoute, Achraf, t'as pas été bon ces derniers temps, tu sors et c'est Mukiele qui prend ta place. Tu déplaces Warren Zaïre-Emery sur le flanc de la défense. Franchement, je suis comme Jo, je le trouve pas exceptionnel ce poste-là, il a l'air finalement d'être plus gêné qu'autre chose. Donc moi, j'ai l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une échéance à préparer, c'est le quart de finale.
Fin de l'échange entre Étienne et Pia, vous verrez ce nouveau couple dans quelques minutes, mais pour l'heure, on va prendre la direction du Parc des Princes, y retrouver notre envoyé spécial Giovanni Castaldi. Nous étions sur la qualif du Paris Saint-Germain. Est-ce une qualif qui prouve que Paris a progressé? Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être plein de nuances. Bonsoir Giovanni et bon anniversaire dans quelques minutes.
Ah ouais?
Oui, tout de suite d'entrée. Paf.
Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Eh ben écoutez Mémé, je suis extrêmement partagé parce que les 35 premières minutes que j'ai vues du Paris Saint-Germain, je les avais pas vues quasiment depuis le début de la saison. Même si j'avais beaucoup aimé le match des Parisiens à Anoeta, à Saint-Sébastien, c'était pas aussi abouti que sur les 35 minutes que j'ai vues. Et puis après, il y a le but et il y a un Paris Saint-Germain qui perd totalement le fil. J'avais pas été d'accord avec Jo sur la fin de match à Saint-Sébastien parce que je trouvais que c'était pas significatif. Là, le dernier quart d'heure de la première période, c'est extrêmement significatif. Sur la notion de progrès, il y a quelque chose qui est frappant sur le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Je trouve vraiment que les Parisiens sans ballon et au pressing, ça progresse. Il y a des séquences de pressing ce soir qui ont été extrêmement intéressantes. Ça se peaufine de match en match. Alors, je suis d'accord que c'est pas sur 70 minutes et que ça demande de la continuité, mais cette équipe qui était si feignante sans ballon, je trouve qu'elle fait énormément de progrès là-dessus.
Je vais relancer par une formule. Est-ce que ce soir, Paris a amélioré ses qualités, mais pas ses défauts? C'est-à-dire à la fois les qualités, donc entrevues déjà depuis le début de la saison, jeu un peu sans ballon, mais quand on lui met de l'impact, quand il y a la gestion des temps faibles, ça a tendance à être fragile, tout ça.
La question du débat, c'était ce soir.
Ouais.
Est-ce que ce soir, ça valide quelque chose?
Ouais.
C'est un peu ça, finalement.
Oui.
Parce qu'il y a eu 30 minutes, effectivement, qu'on a tous vu excellentes.
Mais c'est jamais blanc ou noir.
Mais si on prend, on va dire maintenant, il y a 8 mois pleins, je vois toujours les mêmes carences. Et je vois toujours les mêmes progrès. C'est-à-dire que l'expression collective d'un pressing, effectivement, moi, je la vois mise en place depuis longtemps maintenant. Ouais, ouais. Alors, elle marche ou pas.
Et c'est très nouveau.
Ça dépend.
Aucun coach n'avait réussi avant.
C'est très nouveau. C'est très nouveau, Enrique. Mais en revanche, le progrès que j'aimerais voir, c'est que dans les temps faibles, Paris concède toujours 4, 5, 6 occasions. Et d'ailleurs, il y a un thème MVP tout à l'heure. Vous verrez, le père gagnant de la saison en Ligue 1, ça sera Donnarumma. Et Donnarumma fait trop d'arrêts. C'est-à-dire, Paris, dans ses temps faibles, est trop mis en danger. Et ça, pour moi, c'est vraiment... C'est un point que j'espérais voir. Jo, J'aurais voté avec vous si j'avais vu Donnarumma faire un match neutre ce soir.
Les stats le donnent.
Donc, 15 tirs du côté niçois.
Et là, pour le coup, c'est une continuité du Paris Saint-Germain. Parce que tu dis que ce Paris Saint-Germain-là, il fait un pressing comme personne, aucun coach l'avait fait avant. Moi, je suis d'accord avec Jo. J'ai vu l'époque Emery où on a vu des choses qui étaient aussi intéressantes dans l'intensité. Mais jamais une équipe du Paris Saint-Germain, là, pour le coup, depuis très longtemps, sur la continuité, sur la durée, concède 15 tirs par match, c'est quasiment à tous les matchs comme ça. Et ça, je trouve ça quand même vraiment inquiétant.
Et en plus, c'est pas une philosophie de Luis Enrique, parce que Luis Enrique dit qu'il va avoir la maîtrise du jeu.
Du contrôle.
C'est pas une philosophie de Luis Enrique de dire j'assume mon déséquilibre, tu vois, comme certains coachs, et puis j'y vais. Je sais que je vais prendre des occasions contre moi, mais par contre, mon objectif, c'est d'en mettre plus que l'adversaire. Là, c'est pas du tout ce qu'il nous vend. Il vend autre chose. Et puis après, pour finir juste sur Jérôme, ce que dit Jérôme, on disait que les gardiens de grandes équipes, c'était très difficile. Parce que peu sur d'arrêt. Un match, t'as très peu d'arrêts, mais il faut être décisif. Là, c'est pas le cas de Donnarumma qui fait régulièrement beaucoup d'arrêts.
Monaco, il y a deux semaines aussi. Ouais,
18 tirs à 15, 6 à 4. Cadré, Giovanni, vous réclamiez la gonfle pour nous faire partager les observations sur place au Parc des Princes. On vous écoute.
Oui, c'est parce que Jérôme, il pointe quelque chose de très intéressant, c'est la gestion des temps faibles du Paris Saint-Germain. Et ce soir, ce qui était frappant, c'est que sur le but, t'as l'impression que ces garçons-là qui pendant vraiment 35 minutes se déplaçaient au millimètre, tout était compensé, ils perdent le fil. Et on voit Luis Enrique dans ces mêmes moments, et ça rejoint ce que disait Jo, sur les temps faibles, il aimerait, mais vraiment, que ces joueurs tiennent le ballon, que ça soit une possession défensive, et pour l'instant ils n'arrivent pas à avoir cette maîtrise là parce que je pense qu'il y a une carence mentale et ça se sent qu'ils sont déboussolés à chaque fois qu'ils se font rentrer dedans, alors que Luis Enrique passe leur temps à leur dire calmez-vous, faites circuler, il leur fait des grands gestes, etc. C'est ce point là qu'ils doivent améliorer, mais contrairement aux années précédentes, je trouve qu'on n'est pas si loin que ça parce qu'il y a un vrai lien. Alors après, je suis peut-être un peu naïf, jeune, tout ce que vous voulez, mais je trouve que Luis Enrique a un vrai impact sur ce groupe-là, dans sa gestion, dans tout ça. Donc je ne désespère pas pour les Parisiens qu'ils y arrivent.
Vous êtes jeune, mais à minuit, vous prenez un an de plus. Ça manque de mental, mais il y a aussi, Nabil, une autre piste.
De qualité aussi, peut-être qu'il a hérité de certains joueurs que si lui avait dû choisir, il n'aurait pas pris cela, il en aurait peut-être pris d'autres. Moi, c'est pour ça, honnêtement, je ne veux pas faire le... Je suis d'accord sur certains trucs. Les relations avec Ramos, je ne les trouve pas terribles. La charnière centrale, je demande à voir. C'est vrai que dès qu'il y a un peu trop d'intensité, bah c'est vrai que ça prend un peu l'eau. Je ne suis pas dupe. Hein. Mais quand même, si vous voulez, Guardiola, quand il arrive à City, je crois qu'il ne gagne pas tout de suite non plus. Alors, je ne veux pas comparer à Guardiola.
Ça, vous venez de le faire, mais c'est à vous. Mais écoutez.
Je demande quand même, comme dans les séries télé, avoir la saison 2. Alors, on est encore dans la saison 1.
On arrête les émissions jusqu'à la saison
prochaine. Je suis persuadé que si la saison prochaine est encore là et que ça se passe bien, il y en a, ils vont nous expliquer par A plus B, et peut-être certains ici, que finalement, la première saison, c'était un audit, un laboratoire pour mettre des choses en place. Donc, moi, je ne sous-estime pas son travail. Je ne suis pas dupe, mais je pense que... Il réfléchit quand même à minimum à ce qu'il fait.
T'es un tout petit peu enfermé dans ta certitude.
J'en ai pas, et j'ai pas le monopole de la vérité.
C'est que
nous,
on dit pas que Paris a pas progressé. On dit que ce soir, c'est pas un match qui montre que Paris a progressé. C'est très différent. Moi, je trouve qu'il se dessine un truc depuis le mois d'août. Et je l'ai dit à Pierre tout à l'heure quand on discutait. Mais ce soir, pour moi, ce soir, ça ne valide absolument pas ça, parce que ce soir, j'ai vu les mêmes carences. Maintenant, si tu me demandes si je vois un chemin qui me plaît depuis le mois d'août, je te dirais oui. J'aime pas toujours le foot de Enrique. Ça, c'est sûr, mais c'est mon droit. On a le droit de l'aimer ou de pas l'aimer. Ouais. Mais en tout cas, la direction qu'il prend, c'est une direction où j'ai l'impression que lui...
C'est quoi,
peut-être nous, non, mais lui, c'est où il veut aller.
Mais moi, il y a des trucs, parce qu'il y a des trucs qu'il a vraiment réussi, ça, pour le coup, depuis le début de la saison. Des vraies forces qui étaient des vraies forces, mais d'une niveau d'une très grande équipe européenne. C'est par exemple le côté droit. Ouais. Le côté droit, c'était vraiment remarquable d'intensité, de créativité, etc., de vitesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te replace Dembélé dans le cœur du jeu. Je veux dire, pourquoi pas, etc. Mais est-ce que tu n'es pas en train de faire une force pour gagner une demi... pour te créer une demi-faiblesse ailleurs.
Il
n'a
pas été dans le cœur du jeu tout le temps. Il a été souvent à droite.
Ah non, non, il a été pendant une très longue partie. Minutes. Non, non, dans le cœur du jeu.
Peut-être voir Giovanni. Giovanni, Giovanni, est-ce que c'était un Dembélé version Real Sociedad, repassé dans le cœur du jeu au milieu? Ou alors il y avait un peu d'alternance? C'était quoi la position préférentielle d'Ousmane Dembélé pour vous, Giovanni? À droite ou au centre? Enfin, voilà, je schématise.
C'était électron libre, il avait la totale liberté. Alors il n'avait pas ce que pour le coup Étienne décrit. C'est sûr qu'en début de saison il devait coller la ligne et c'était Achraf Hakimi qui rentrait. Là il avait toute la liberté de se déplacer. Je trouve que ça lui allait plutôt bien ce soir parce qu'il a destiné un nombre de bons ballons ce soir. C'était bien meilleur par exemple qu'à Saint-Sébastien. Mais totale liberté pour Dembélé.
Et une qualif qui prouve que Paris a progressé ce soir. La question fait débat, super duel. On a un beau réflexe d'aller voir une nouvelle fois au Parc des Princes, non pas Giovanni Castaldi, mais Jérémy Janagro, qui a croisé Nuno Mendes après la rencontre. Et ils ont parlé de ça. On écoute la conversation entre Jérémy et Nuno Mendes.
Hormis le petit quart d'heure de flottement dans la première période, est-ce que tu estimes que c'est peut-être le match référent du PSG cette saison et que vous montez en puissance là?
Je pense que c'était bien passé le premier temps, mais je pense qu'on a fait beaucoup de matchs mieux que ce premier temps. Mais je pense que l'équipe elle est bien. On essaye de faire toujours les choses que le coach demande. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer, il faut évoluer. C'est ça.
Voilà. Ils sont en marche, mais il n'est pas dithyrambique sur la production, même sur justement ce début de match qui, personnellement,
il dit même qu'ils ont fait des bien meilleurs matchs que ça.
Ah, c'est vrai, hein, le match à Monaco, contre Monaco au Parc, c'était fantastique. Celui qu'on gagne 5-2, on prend deux buts, et donc c'est toujours les mêmes faiblesses, mais n'empêche qu'on en met 5 et que 5 juste, même, on kiffe. Moi, j'aimerais juste témoigner d'une chose qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias globalement. Dans les médias
allez-y.
Voilà, c'est pour ça, c'est cool que je sois là et que vous m'ayez embauché, c'est bien. Je ne suis pas détentrice de la vérité des supporters du Paris Saint-Germain. Je ne les représente pas. En revanche, je les observe énormément et je parle beaucoup avec eux et avec de très nombreux supporters. Et moi, j'observe quelque chose qui est nouveau. C'est un sentiment général de confiance dans le coach et de maintenant, on est prêt à lui laisser les clés. On ne comprend pas tous ses choix parce que c'est une réalité, par exemple, sur Mukiele. On n'a pas les clés de ce choix. On ne sait pas pourquoi Mukiele est blacklisté.
Il n'a pas confiance en lui, c'est
voilà. Oui, mais on n'a pas d'explication. Voilà, ça doit être quelque chose qui ne se joue pas forcément que sur le terrain. On ne sait pas. Mais je trouve que les supporters aujourd'hui sont confiants et ont envie de faire confiance à Luis Enrique, ont envie de se projeter aussi dans la saison prochaine avec lui. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre. Les supporters du PSG, qui sont quand même les premiers destinataires du football de l'équipe, pour l'instant...
Ils ont le droit de s'exprimer aussi, nous.
Non, oui, non, mais c'est une sensibilité. Elle ferme pas le débat. Elle nous donne un.
Tu peux pas t'exprimer, pas du tout, au contraire. Mais juste, je veux bien apporter cette sensation que moi j'ai et que je constate tous les jours.
Pour beaucoup de gens, ça introduit l'idée qu'il a instauré une idée du collectif.
Oui.
Et que le projet change aussi par rapport à ça. C'est qu'au lieu d'empiler des noms. Tant pis, on les comprend pas toujours, mais des choix, des stratégies, des voilà. En tout cas, moi aussi, pour ce que j'échange avec les gens, c'est
qu'il y a ça c'est un peu, j'aime bien, mais là, ça c'est le débat du début de saison, etc. Le nouveau projet, le patati et le patata. Aujourd'hui, on est en train de commenter, en tout cas, de tenter d'essayer de commenter si le PSG sportivement est en train de progresser pendant sa saison. C'est-à-dire qu'on apprécie Luis Enrique, que ça apporte de la fraîcheur, qu'il y ait des jeunes, que ok, d'accord, ça, on l'a fait 200 fois ce débat.
Mais expliquer pourquoi pas.
On n'est pas en train de réclamer la tête de Luis Enrique, de dire qu'il va quitter son poste s'ils sont éliminés en quart de finale de Ligue des Champions. Mais on peut juger que sur ce qu'on voit, dire le progrès, en tout cas sur ce match-là, il n'est pas flagrant.
Et comment juger le match de Paris? Moi, ce qui m'a intéressé, j'ai mis cette petite question comme ça en direct. À sa deuxième période, là, puisqu'on arrive 33 minutes, on va dire, vraiment maîtrisé du Paris Saint-Germain. Moi, je vous dis, avec des circulations de balles, des accélérations vertigineuses, un grand trou d'air, où finalement Nice est ressuscité, là, ressuscite.
Complètement.
Là, vas-y, ça va commencer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut juger, justement, après un temps très fort, après un temps très faible, cette deuxième période, qu'est-ce qu'elle nous raconte sur aujourd'hui ce PSG-là dans les échéances qui l'attendent et pas la saison prochaine? Moi, je suis intéressé par la Ligue des Champions.
Moi, j'ai juste un mot et je lâche la gonfle sur la défense du Paris Saint-Germain.
Alors, vous l'avez trouvé c'est le jeu défensif ou la défense?
C'est le jeu défensif. Ils ont ce problème-là, donc ils n'ont pas trouvé, en tout cas, celui qui va protéger cette défense-là. Et cette défense-là, elle a vraiment besoin d'être protégée parce qu'elle n'a vraiment qu'une certitude. Alors, il y a eu en effet beaucoup de blessés. Mais franchement, il y a des périodes où ils prennent l'eau face à une équipe de Nice comme ça. C'est quand même inquiétant par rapport à la Ligue des Champions.
Là, ça c'est. Non, est-ce que je. Et puis après, je vais filer la parole au copain. Ouais. Ça, c'est après la 33e minute, là, ce constat-là, ou c'est en deuxième période?
Après, et c'est en deuxième période.
Et en deuxième période aussi.
Ben, en fait, il y a deux périodes de Nice. Il y a les 15 dernières de la première et je trouve les 15 premières de la seconde.
Ouais.
Parce que il y a des arrêts là aussi de Donnarumma. Il y a des situations où effectivement, d'ailleurs, on retrouve un peu ce schéma-là. Rappelez-vous, quand Paris mène 2-0 contre Brest, en championnat.
C'est vrai.
Au retour des vestiaires, tu as 20 minutes où tu comprends tout de suite que Brest va leur faire mal jusqu'au bout du match. Et je trouve que c'est souvent Paris. Alors, j'ai vu beaucoup de bons débuts de match. Et j'ai vu beaucoup, en revanche, cette période-là, donc 30e, 45e, 45e, 60e, cette demi-heure-là, je la vois très souvent.
Jamais tu vois tout avec Paris. Sociedad, t'as 60 minutes où ça va pas. Donc c'est pas que le début, la fin.
Ce trou-là, je le vois souvent.
À la limite, en fin de première mi-temps, ça peut se comprendre, mais en début de deuxième, c'est ça qui est plus étonnant, quoi.
Je dis qu'en fait, c'est pas. Ça alterne régulièrement sur toutes les parties de match. Et j'ai rarement vu un match sur 90 minutes où c'est la même équipe qu'on voit sur le terrain. Quoi.
J'ai une thèse à vous exposer, pas une enquête du calme
et thèse. Vous êtes bon en thèse et en enquête.
Oui, j'ai fait une école de questions, mais pas de thèse. j'étais frappé, il y a une réflexion de Luis Enrique qui m'est revenue. Luis Enrique, parfois en conférence de presse, dit on est une des équipes d'Europe qui propose le plus de courses à haute intensité. Et dans les premières demi-heures, j'ai trouvé que la vitesse de Paris sur les courses et les répétitions de courses était, pour moi, assez phénoménale. Juste après.
Contre-coup.
Est-ce que finalement, le temps fort est lié, enfin, ou le temps faible est lié au temps fort? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a.
Ça plonge.
Il y a les petites pannes, il y a les petits trucs comme ça. Qu'en pensez-vous, les amis? Est-ce que c'est lié, temps fort, temps faible? Non ou pas?
Je vais botter en touche, comme avec les dossiers médicaux. J'ai pas tous les éléments. Il faudra inviter le préparateur physique du Paris Saint-Germain. On peut y voir un lien rationnel. Mais
parfois, dans les évolutions d'équipe, les évolutions comme Arteta avec Arsenal, les évolutions avec Guardiola, c'est un peu plus de contrôle, moins de projection.
Il y avait aussi une phrase que disait Guardiola, c'est que quand tu es dans les temps faibles, il faut savoir les gérer pour pouvoir gagner notamment la Ligue des Champions. Ouais. Et moi, je trouve que Paris, quand ils sont dans un temps fort, c'est très fort.
Ouais. Voilà.
Et quand c'est un temps faible, c'est très faible.
Ça craint, quoi.
Et donc, quand tu joues Nice ce soir, tu t'en sors plus ou moins. Quand tu vas sortir d'autres équipes qui ont vraiment un peu plus de talent et qui sont mieux que Nice l'est actuellement,
c'est un peu
inquiétant. Quoi.
J'avais noté une action à la 47e minute, donc la mi-temps vient de se terminer, le match reprend, centre de Laborde pour Boga. Alors, est-ce que c'est la qualité du centre qui provoque ce flottement dans la défense parisienne? Parce qu'on voit que on a Boga qui rate son contrôle. Il y a Warren Zaïre-Emery qui est un peu aux fraises au niveau du marquage de Boga. Puis Hernandez également. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. Je pense que Luis Enrique a dû les remonter, a dû dire, il faut jouer avec de la personnalité. Enfin, tout ce qui, il faut jouer notre jeu. Il laisse toujours un peu des choses se prolonger, s'effilocher, j'ai l'impression. Le signal envoyé à l'équipe d'en face. Ils ne sont pas là physiquement.
Mais parce que on n'a pas ce taulier. Enfin, cette figure un petit peu tutélaire derrière, que beaucoup d'équipes en Europe ont, moi je ne l'ai pas.
Elle est déclassée, elle est sur le banc, elle est sur le départ.
Mais on ne l'a pas.
On a bien compris de qui on parle.
Mbappé dans le combat, ce n'est pas ce qu'on lui demande.
Je parle de Marquinhos.
Ah, Marquinhos, pardon.
C'est celui qui est censé représenter ça. Après, il y a Danilo, qui est un peu dans l'ombre, qui est quand même un vrai soldat. Mais bon.
Ça fait longtemps qu'il n'est plus tutélaire,
pardon.
Ça fait longtemps que ce n'est plus quelqu'un qui inspire une forme Marquinhos, de respect. Parce que Marquinhos, malheureusement, il traîne plein de choses. Génial. Et traîne plein de casseroles aussi.
Le virage du leader de l'équipe.
Exactement.
Moi, je comprends surtout, et ce qui m'intéresse aussi sur cette séquence, je ne veux pas me projeter sur la saison prochaine. Enfin, je suis Marquinhos, j'ai mon agent au téléphone rapidement quand même.
Ouais, okay.
Ça, c'est un autre débat.
Ce qu'il a vu ce soir en défense centrale, il peut se dire quand même qu'il y a une chance de revenir.
Je crois qu'ils sont en train de l'inviter à la sortie. Là,
après, juste.
Pia, dernier mot de conclusion.
Très court.
Pas comme le super duel. Attention,
on l'a probablement pas gagné.
Non, c'est juste pour dire que cette défense avec ces quatre joueurs-là, je pense qu'elle est inédite cette saison. Et elle est quand même, tu l'as souligné Étienne, elle est quand même vraiment décimée la défense. Donc il y a aussi ça à prendre en compte.
Et le Paris Saint-Germain, c'est décimé, c'est gagné cette saison.
Ok. Pia et Nabil, est-ce une qualif qui prouve que Paris a progressé? Ils sont plutôt la majorité de nos téléspectateurs à dire que oui, c'est plutôt un match qui est curé. C'est vrai que le match était plutôt agréable à suivre.
Oui.
Soir de vie.
Là, on s'est pas emmerdé.
C'est grâce à Nice aussi.
Sauf que c'est pas la question qui est posée.
Non, c'est pas la question.
C'est grâce à Nice aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais...
Qui est le meilleur Parisien du soir? Bonsoir. C'est la case MVP, habillage MVP. On y va. C'est parti.
Moi, c'est Boga.
Parisien.
On va commencer une fois n'est pas coutume par Jérôme Alonso, qui nous a donné du Donnarumma. Voilà. Hein, d'accord? Ok, maintenant on reprend le fil de la rivière tel un saumon. Puis à Clément, je me retourne vers vous.
Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais dire Fabien Ruiz.
Nabil.
Pour moi, c'est Boga, le niçois, le meilleur joueur du match.
Ah, le meilleur joueur du match, c'est très bien, c'est bien, Boga. Étienne.
Donnarumma.
Donnarumma. Et pour vous, cher président ?
Pareil.
Donnarumma aussi ? Donnarumma. On fait parler les copains sur les gardiens. Évidemment. Donnarumma, pour d'autres petites choses que vous avez vues ou non, bah pour finalement les arrêts qu'il a fait.
Les arrêts qu'il a fait ce soir, les arrêts qu'il fait les autres soirs, c'est quand même assez particulier d'être passé comme le point faible d'une équipe à son point très très fort, ce qui prouve que lui a progressé. Parce qu'il a progressé dans son jeu au pied, même si sur les arrêts il était déjà exceptionnel, en tout cas il confirme, mais ça montre aussi que finalement on ne se dégage pas de force particulière dans ce pari-là, puisque c'est Donnarumma qui lui a progressé quand d'autres en tout cas ne l'ont pas fait, et il manque au milieu de terrain, il manque derrière du monde ce soir.
Monsieur Mikou, oui. Donnarumma, ouais. Pour toutes les choses qu'on t'a dit, vous avez des petits...
Je le trouve serein, à chaque fois il dégage, c'est ce que manquait aussi dans les dernières saisons. Hein. Au PSG, sur ces matchs-là, il dégage cette sérénité. Et puis, je l'ai vu sortir 2-3 fois, ce qu'on voit rarement faire, pour aller boxer des ballons, tout ça. Donc, ça aide la défense aussi. Donc, je trouve que... Ouais, et puis, il fait des vraies parades, quoi. Mmh.
Fabienne Ruiz, on revient. Et je vais avoir la même question, mais je vous écoute. Alors, allez-y, Fabienne Ruiz.
Bah, déjà, il a mis un but et il a délivré une passe D sur le premier but. Mais au-delà de ça, moi, j'ai retrouvé ce soir le Fabienne Ruiz que j'avais aimé juste avant sa blessure à l'épaule au mois de décembre. C'est-à-dire un Fabien Ruiz qui joue proche des attaquants et qui est inspiré dans ses passes. Et franchement, il a fait plusieurs passes vraiment très très belles ce soir. Ouais. Et c'est ce que je disais au début de l'émission. J'ai été agréablement surprise aussi par la manière dont il combinait avec Kylian Mbappé. Et donc voilà, j'ai aimé son match et on lui tombe suffisamment dessus pour être capable de dire que quand il est bon, il est bon quoi.
On va aller voir Giovanni Castaldi. On continue cet inventaire. Vous, vu du stade, alors je ne sais pas si...
De très près.
Ouais. C'est Giovanni, j'ai l'impression, non ?
C'est oui, pourquoi ? Ah, qu'est-ce qui se passe ? Non ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas vous donner...
Il n'y a plus de lumière.
Ah, il n'y a plus de lumière ? Oh, bon, même sans lumière, vous êtes une lumière, Giovanni.
Ah,
non,
oui.
Non,
oh,
ouais.
Je crois qu'il doit partir à sa fête d'anniversaire.
Ah, d'accord, ok. Bon, bah d'accord. Ouais. Oui, j'entends le bruit de l'hélicoptère, en effet. L'information est confirmée. Non, sur Ruiz. Intéressant, mais justement, au moment où Paris a des temps faibles, est-ce que vous le voyez surnager ? Est-ce que vous voyez ce côté un peu leader récupéré ?
C'est son énorme point faible. C'est-à-dire que quand il est sous pression, il panique et il est tout lent.
Et pour un milieu de terrain, c'est un peu chiant.
Je suis la première à dire qu'on a un vrai problème au milieu de terrain. C'est une évidence. On n'a pas de génie au milieu de terrain, et quand on a un club du niveau du Paris Saint-Germain, il faut avoir un génie au milieu de terrain. Donc tant qu'on n'aura pas ça, de toute façon, voilà, on pourra toujours rêver de l'époque Mota, Matuidi, Verratti, mais voilà, on en est très très loin.
Vous avez envie de distinguer un Niçois. Ça raconte beaucoup votre amour du football, j'ai l'impression, pas ce choix Bogart.
C'est aussi une manière de parler un petit peu de Nice, parce que ce soir, il y a eu quand même un adversaire qui a, c'est vrai, été secoué pendant 33 minutes, mais qui a aussi montré du football, des qualités. Et voilà, et celui, s'il y a eu match, c'est grâce à Bogart.
9 dribbles. Hein.
Ouais. Il avait Zaire Emery qui était face à lui, qui n'est pas un spécialiste du poste, mais je pense que ce type de joueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, même s'il y a un spécialiste du poste, il peut lui faire passer une mauvaise soirée. C'est un investissement massif de Nice à l'intersaison, c'est 18 millions d'euros. Il est arrivé. On se posait quelques questions. Je trouve qu'il monte en puissance, il a des cannes, il fait des différences qui sont brutales. Et autre élément, pour ne pas parler de lui, pour le coup, moi, perso, je me pose quand même des questions sur le but de Beraldo, là, sur leur jeu passif ou pas de Ramos, qui influence ou pas le gardien. Mais c'est une remarque juste personnelle, peut-être que je me trompe complètement. Mais je me demandais s'il n'y avait pas hors-jeu. Quoi. Je me suis posé la question, en tout cas.
Le débat est lancé.
Moi, je trouve que sur cette action, alors je ne sais plus, les règles changent toutes les 5 minutes, mais apparemment, si Dante touche le ballon, ça remet tout le monde en jeu. Mais moi, je trouve qu'en fait.
Ça remet plus, mais il n'était pas hors-jeu, Beraldo.
Ouais, c'est ça.
Déjà.
Et
c'est de savoir si Gonzalo Ramos fait acte de jeu, provoque la réaction de Dante, en fait. Fait action de jeu. Elle est plutôt là.
Vous ne parlez pas de la même chose.
Oui,
il est plutôt là. Beraldo n'est pas hors-jeu.
Beraldo n'est pas hors-jeu.
Oui, mais Ramos, il est hors-jeu.
Tu as 2-3 mecs qui sont hors-jeu, donc les joue aussi le ballon sans savoir s'il est hors jeu ou pas hors jeu. Donc si t'as pas les mecs hors jeu, peut-être qu'ils ne jouent pas le ballon comme ça.
Ils sont positionnés comme s'ils jouaient la ligne, mais non. Non, il y a un truc qui est assez équivoque en fait. Dans la position. Ouais, ils sont alignés.
Au centre. Ouais. Mais t'as aussi le gardien qui peut aller sur Ramos.
Bah c'est ça en fait. Il influence Ramos.
Tu peux Boulka. Ouais, j'ai l'impression que moi, il a envie d'aller un peu sur Ramos. Et Ramos est en jeu.
Il a raison.
Mais il touche pas le ballon.
C'est ça.
Mais est-ce que Ramos.
Donc il a une influence sur le jeu.
La course ou le placement de Boulka. La question.
Parce que s'il n'y a que Beraldo, il va plus sur Beraldo.
Voilà.
Exactement. Sur Beraldo.
Donc ce but-là n'aurait pas dû être accepté.
Je sais pas. Enfin, c'est la question, quoi. Tout simplement.
En tout cas, le défenseur qui dévie et qui remet en jeu, ça n'existe plus depuis un an et demi.
Non, je sais. Depuis la Ligue des Nations.
Comment savoir nous alors que les arbitres eux-mêmes connaissent plus les règles.
On peut être contre ça quand même, non?
Comment?
C'est pas parce que ça n'existe plus qu'on peut être contre, on peut être contre ça.
Oui,
parce
non,
que
non.
Moi je trouve que c'est une aberration. En fait. Quoi, ouais. C'est une aberration que le mec qui soit hors jeu, le défenseur défend parce qu'il sait pas si le gars est hors jeu ou pas, il cherche à dégager le ballon, et en dégageant le ballon, il remet le mec qui est hors jeu en jeu. Donc moi je trouve que c'est aberrant.
Non, justement, ça n'existe plus ça.
Non, mais ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus.
Écouté, tu ne le sais pas, mais tu as été écouté en fait.
Si tu touches la tête là, il y a hors jeu ou il n'y a pas hors jeu?
Plus. La meilleure jurisprudence, c'est Mbappé contre l'Espagne en finale de Ligue des Nations. Oui. Rappelle-toi, le défenseur espagnol, oui. Tacle, Mbappé est hors jeu, il n'y avait pas hors jeu. Ça a changé l'été d'après.
Ouais, voilà.
Donc maintenant, quand tu veux intervenir et que tu touches le
donc
ballon,
si là,
s'il était hors jeu,
il aurait eu hors jeu.
Exactement.
Hors jeu, oui, ça change.
Oui, hors jeu. Beraldo n'était pas hors jeu. Oui. Beraldo, le buteur, c'est Gonzalo Ramos qui fait action de jeu.
Sans savoir qu'il était entendu par les instances, t'imagines?
Mais c'est une vraie question.
Non, parce qu'après, il y a chapeau, on ne
savait pas.
Je peux dire un petit truc? Enfin, j'ai rien compris sur le hors-jeu, mais par contre,
merci
évidemment,
beaucoup.
Parce que je suis une meuf.
Elle a beaucoup d'humour.
Par contre, sur Beraldo, j'aimerais quand même dire qu'on a attaqué la défense, mais moi, je trouve que le match de Beraldo, il est exceptionnel. Son adaptation, elle est exceptionnelle.
Ce soir, son match, il n'est pas exceptionnel.
Franchement, pour un mec qui vient d'arriver, qui a 21 ans, qui n'a jamais joué en Europe, de sortir un match comme ça en quart de finale de Coupe de France, je suis désolée. Alors qu'en plus, à côté de lui, il y a deux mecs qui ne sont pas à la poste.
T'es un peu aveuglé par ton amour du Paris Saint-Germain.
Il a été moins bon contre Reims, on va dire.
C'est les moustaches. Non, je trouve qu'il a fait un très très bon match. Et en plus, il met son premier but avec le Paris Saint-Germain. Et franchement, moi,
ça,
son
c'est
adaptation.
Autre chose, mais en revanche.
Du coup, c'est la fin de ma phrase. Et du coup, son adaptation, je la trouve fantastique et je suis hyper contente qu'il soit au PSG.
Vous, non, Beraldo, ce soir.
Ce soir, il a fait des bons matchs dans l'axe. Il en a fait de très mauvais à gauche. Il en a fait des bons
matchs.
Il
en a fait un mauvais
ce soir, il fait un match. Il a flotté avec Lucas Hernandez dans l'axe à de très nombreux moments. Et c'était l'ouverture absolue dans la défense.
J'étais avec Pia jusqu'à présent. Mais même pour modérer un peu le truc, je l'ai vu contre Reims se faire jongler par Diakité dans le dos.
Bon, là vous lâchez votre partenaire, c'est pas.
Non, je veux pas la lâcher, mais.
Monsieur, vous lâchez votre partenaire,
il n'y a pas de problème. C'est bien, mais attendons quand même.
Ce soir, il y avait la Ligue des Champions. Dortmund est qualifié et l'Inter, finaliste, est passé à la trappe. C'est l'Atlético de Madrid qui se qualifie pour le top 8 pour les quarts de finale. Tout ça, c'est joué à l'issue d'une séance de tir au but et puis d'un match extraordinaire.
Et les Colchoneros sont tout renversés dans ce match où il s'est passé énormément de choses, beaucoup de rebondissements. C'est l'Inter qui a ouvert le score sur un modèle d'action collective. Regardez, c'est absolument sublime. Et ça va finir par cette passe en retrait de Barella pour Di Marco. 1-0 pour l'Inter qui à ce moment-là mène 2-0 sur les deux matchs. Égalisation de Griezmann avec un petit peu de réussite dans la surface. Le ballon qui est contré, notamment après une intervention ratée de Pavard aussi. Memphis Depay, 2-1 à la 87e, envoie son équipe en prolongation. Pas de but en prolongation. Et regardez le dernier tir au but de Lautaro Martinez. 3 ratés côté Nerazzurri au total. Et donc l'Atlético d'Antoine Griezmann qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face aux finalistes sortants.
Deux énormes parades de
Black. Exactement.
C'est vraiment...
Un Argentin qui se rate sur une séance de tir au but, je pense. Ça fait parfois un peu plaisir. Dortmund qui se qualifie donc après un succès tranquille là, contre le PSV Eindhoven 2-0.
Ça a été un peu plus tranquille en effet pour le Borussia Dortmund à domicile 2-0 face au PSV. Un but en tout début de rencontre et un but en toute fin de rencontre. Celui au tout début du match, il est signé Jadon Sancho, frappe au premier poteau rentrant. 1-0 dès la 3e minute avec ce but de l'ancien mancunien. Et au bout des arrêts de jeu, c'est Marco Reus qui va profiter de la glissade de Babadi pour aller tranquillement tromper le gardien néerlandais. Ça fait 2-0 pour le Borussia après le match nul 1 partout de l'aller. Donc Dortmund, adversaire du PSG d'ailleurs pendant la phase de poule, est qualifié également pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Juste... Le résultat, on a l'impression que c'était un match facile. C'était tranquille, 2-0, mais c'était ouvert des deux côtés. Ça aurait pu être un score plus...
Juste non, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Ah bah non, il faut passer la pub là, mon habile, il faut payer vos sweatshirts. Dans quelques minutes, la suite, les qualifications après, Ligue des Champions et la qualification de Paris pour le dernier carré de la Coupe de France. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir, dernière heure chargée, on va débriefer la qualification du Paris Saint-Germain, également la qualification de l'Atlético de Madrid aux dépens de l'Inter, le match a été formidable, c'est terminé sur la dramatique, les fameux tirs au but, puis le Borussia a plié, a éliminé le PSV Eindhoven. Retour sur le match du Paris Saint-Germain. Une action en photo à vous montrer. On est à la 65e minute. Coup franc de Kanguini, sauvetage de Boulka qui va prendre les genoux de Rosario dans le nez. Vous le voyez, il a été KO. Il se relève, le nez cassé. Donc Boulka qui termine le match avec le nez cassé. Est-ce que c'est incompréhensible ?
Oui.
Oui. Personne ne peut comprendre. Mais c'est toujours sur ces protocoles commotion, ne sont jamais activés.
Oui, il n'y a pas de débat. Le seul que j'incrimine pas sur le coup, c'est le joueur, parce que nous, dans ces moments-là, on a toujours envie de continuer à nos corps défendants. Hein.
Sortir, c'est lâcher l'équipe.
Non, mais c'est pas surtout quand t'es gardien, le logiciel, c'est pas vraiment ça. Mais oui. c'est pas à toi de décider en fait. T'as un mec qui doit sortir, tac, décasser, dégage de là. Voilà, point à la ligne. Stop, il n'y a même pas de débat pour moi. Jusqu'au jour où on aura un truc plus grave, voire dramatique, où on se réveillera, évidemment, on aura un autre débat ici, peut-être un soir, enfin, j'espère pas. Non. Mais évidemment, c'est une aberration que Marcy finisse le match, ouais. Enfin, pour moi.
Voilà, maintenant, pas mieux, quoi, comme on chiffre aux lettres.
Ça paraît évident, en plus, il termine avec deux énormes cotons dans les narines, on se demande s'il peut continuer le match, même d'un point de vue de sa vision, il est forcément extrêmement gêné, mais évidemment, le nez cassé, mais ça n'a aucun sens, c'est incroyable.
Moi, j'ai regardé du MMA tout le week-end, c'était moins violent que ce que j'ai vu là tout à l'heure avec Boulka, et en plus, c'est à chaud, à froid, il va avoir encore plus mal. Ça a touché quand même la tête, le nez, et la cloison nasale, j'en sais rien. Donc voilà, quoi. Enfin, je trouve ça complètement incompréhensible.
On nous bassine de protocole commotion dans n'importe quel sport et toutes les semaines, n'importe quoi. Là, t'as un gardien qui prend un genou dans la tête et qui a un nez cassé avéré, qui continue le match.
En général, à chaque patte, il y a un médecin qui est un médecin de la compétition, un médecin neutre qui arrive.
Sans parler de visage, j'ai commenté dimanche soir Marseille-Nantes. Il y a l'arrière-gauche de Nantes qui joue une demi-heure avec la clavicule cassée.
Oh, ouais. Non mais c'est vrai. Ouais. Non mais et retombe dessus.
Et tu vois le gamin qui regarde le banc, les larmes aux yeux pendant 15 minutes quoi. T'as envie de leur dire mais c'est quoi le projet en fait. Tu vois, au-delà du sportif où le mec pouvait plus défendre du tout, c'est n'importe quoi. Donc là ce soir on franchit encore un palier et je trouve ça aberrant. Voilà.
Mais c'est, après... sur ce cas-là, sur ce cas-là, pourquoi c'est pas l'arbitre qui décide?
C'est pas l'arbitre qui décide, c'est normalement c'est le médecin.
Je sais pas si je me trompe ou pas, mais au rugby, s'il y a une commotion, c'est l'arbitre qui décide de sortir le joueur, non?
Parce que t'as un protocole établi. C'est pas un médecin.
Il respecte un protocole.
Par un médecin avant?
En amont.
En amont, t'as un protocole. Au rugby, c'est choc au visage.
Il y a un cahier des charges.
Voilà. Bah, c'est ce que je te dis.
Et là, au football,
c'est arrivé, non? C'est rentré dans les règlements. S'il y a un coup à la tête, s'il y a une commotion, on sort. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas l'arbitre qui décide de dire bon, il ne continue pas le match.
Peut-être que le nez, ce n'est pas la tête.
Luis Enrique est arrivé en conférence de presse. On va prendre le direct comme ça. Luis Enrique, on y va.
Ah.
Bonsoir coach, juste là, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. On a vu un Paris Saint-Germain pendant 35 minutes de très très haute qualité. Le pressing, l'utilisation, enfin, c'était assez fort. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première demi-heure? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez perdu le fil? Comment vous aimeriez que votre équipe se comporte dans les temps un peu plus faibles qui sont normaux? Merci.
Buenas noches, bonsoir. En premier lugar,
je pense que ça a été les meilleures premières 35 minutes que j'ai vues. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a joué face à un adversaire qui est aussi bon que Brest en tant que dans la défense et aussi dans les occasions de but. Donc on a créé beaucoup d'occasions de but, on a dominé parfaitement le match à ce moment-là, mais le football est parfois curieux et très injuste. Il suffit d'une action et on encaisse un but de façon assez étrange juste après, donc ça ouvre une période de doute. Et l'adversaire aussi remonte et il reprend le moral, il pense qu'il peut faire match nul. Il aurait même pu, durant ces 10 minutes-là, faire match nul. Ça aurait été très injuste, mais le foot est comme ça et il n'y a pas de justice dans le football. Et dans la deuxième mi-temps, je pense qu'on a été de nouveau tout à fait concentré, qu'on a été supérieur à l'adversaire, on aurait pu marquer encore plus. Je pense que le résultat reflète la supériorité du PSG face à un adversaire qui est très bon. Et c'est quelque chose qui va nous servir pour améliorer encore notre pressing, la possession, la concrétisation des occasions de but. Donc c'est un match très complet, je suis très content.
Bonsoir coach, Stéphane Bianchi du Parisien. Je vous entendais dire l'autre jour que vos décisions ne faisaient pas toujours plaisir à vos joueurs. Est-ce que le match de ce soir, le fait que vous soyez encore en lice en Coupe de France, en Champions League et leader du championnat, aide à faire passer le turnover que vous imposez aux joueurs et à avoir leur cohésion?
Me da igual.
Ça m'est égal. C'est normal que les joueurs ne soient pas contents lorsqu'ils ne jouent pas. Et si tu demandes aujourd'hui à ceux qui étaient sur le banc et qui ne sont pas rentrés sur le terrain, ils doivent être très en colère. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est que l'équipe gagne. L'objectif, c'est que les joueurs, lorsqu'ils signent pour un club, soient prêts à donner 100%. Et ça, c'est quelque chose que tu fais à la fois dans les matchs et durant l'entraînement. Moi, je suis un entraîneur qui regarde beaucoup ce qui se passe pendant les entraînements. Donc, ça n'est pas une ONG, c'est un club de foot de très haut niveau. Donc, les joueurs doivent donner leur maximum et prêts pour cela. Et donc, si le coach a confiance en toi, très bien. Et sinon, entraîne-toi plus fort, prépare-toi mieux et profite des minutes de jeu que je te donne. C'est la compétition de très haut niveau, que ça plaise ou non. Donc ça, j'avoue que pour moi, ça m'est égal. Et vous rajoutez la fin de la phrase.
Ça, c'est discours de patron, là. C'est le boss, là.
Ah ouais.
Hein, hein?
C'est son style, hein.
Ah ouais,
là, style, avec beaucoup de distance, avec...
Bien sûr. Je m'en fous, c'est médial. Ouais.
Bon, on répond...
Non, mais là il répondait aux questions, là. Là, il a répondu aux questions, là.
Oui, il n'a pas répondu à la question de Giovanni, qui était intéressante, sur les temps faibles du Paris Saint-Germain.
Oui, l'explication du pourquoi du temps. Il a dit que c'était mental.
Sur cet aspect-là, il n'a pas vraiment répondu.
Oui, il a dit que c'était injuste, le football est injuste. Oui, c'est
après,
vrai.
C'est vrai que sur le turnover, quand vous êtes en course dans toutes les compétitions, et ce n'est pas à ce moment-là de la saison qu'il va y avoir une crise. Puis bon, Mbappé, on a compris qu'il allait jouer les matchs essentiels pour la fin de saison du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire pas forcément au championnat, mais dans les deux coupes.
Puis quand il dit ici c'est pas une ONG, il répond vraiment à un sentiment que certains supporters pouvaient avoir, que c'était l'hôtel, que c'était un hôtel de luxe, le PSG, où les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. Et quand il dit c'est pas une ONG, ça rejoint un peu ce truc-là, c'est-à-dire on n'est pas là en fait pour faire plaisir aux joueurs, on est là pour gagner des compétitions et les joueurs ils ont qu'à s'aligner.
Qu'est-ce que j'apprends? Le breaking news, information de l'équipe, la participation de Mbappé au jeu est de plus en plus compromise. Ça à lire sur le site équipe.
Exactement, ouais. Ça vient de tomber, une petite bombe qui nous vient de Vincent Duluc. Donc les JO de Paris s'éloignent pour Kylian Mbappé. L'article est déjà disponible sur le chrono, l'équipe, en gros, toutes les informations, évidemment, sont dans l'article. Vincent nous explique qu'à date, aujourd'hui, en tout cas, la piste, en tout cas, enfin, la tendance Mbappé au JO, ça semble s'éloigner, on va dire.
Donc il est bloqué par le Real Madrid, quoi.
Ouais, c'est à peu près l'idée de l'article.
J'imagine.
Ou une tournée commerciale du Real Madrid,
Lui-même avait commencé à ouvrir la porte un peu à ce qui ne participe pas au jeu.
C'est pas moi qui décide.
Je ferai pas d'histoire. Bon, si ça peut se faire, c'est bien. Sinon, c'est pas essentiel.
Il a amorcé il y a un moment déjà.
Rendez-vous demain pour la liste de Didier Deschamps, pour les matchs internationaux. À mon avis, cette question lui sera posée aux sélectionneurs aussi des espoirs de Thierry Henry. C'est à suivre sur la chaîne L'Équipe. Et bah oui, on a les droits. Enfin, on a les droits pour les espoirs. Attention, quand même. Faut laisser un peu vivre au TFA, comme la grande chaîne. Et les notes de l'équipe du soir. Tiens, on va commencer par Mbappé. Est-ce qu'on l'avait mis dans la rivière? Quelle note pour Mbappé? Satisfaisant, moyen, satisfaisant, si satisfaisant, bon match pour.
T'as le droit de copier sur moi. J'ai bien vu que t'as regardé, mais
six,
je suis là. Je gêne pas.
6.
Je suis là, c'est là.
Ouais. Ah, ouais. Voilà. Ah bah, Pia a mis un 7, vous avez mis un 6 et vous hésitiez, c'est ça?
Hésitez entre 6 et 7?
Ouais. Hésitez, ouais, parce que si vraiment je scinde son match en deux et peut-être que je mets un 8 et un 4. Ouais. Les deux périodes que je note. Voilà, ouais. Souvent je fais ça quand j'hésite un peu, donc voilà, je suis pas très bon en maths, mais ça préfère pas loin de 12 et si je divise ça fait 6.
Dans le temps faible qu'a subi Paris, il disparaît, mais l'équipe disparaît pour un attaquant. Vous auriez aimé qu'il soit un peu plus présent dans ce temps faible, c'est pour ça que finalement on reste qu'à 6, Jo et les copains.
Que le temps fort soit plus fort encore.
Que le temps fort soit plus fort encore. Ouais.
Après, il fait le job quand même, il ouvre la marque.
Et son but est fantastique.
Quand il arrive lancé, moi je regarde en ce moment un documentaire là sur la NASCAR. je me serais cru à Indianapolis quand il est lancé. Mmh. Ben, franchement, faut pas le toucher. Hein.
Non, mais surtout, si tu mets Dante à côté, c'est vrai que ça fait.
Ouais, mais là, tu tires sur l'ambulance. Il y avait d'autres joueurs, il y avait affaire à Todibo. Non, ouais.
Joe, c'est satisfaisant. Oui. Il y a deux matchs où. Il y a combien de matchs dans le match de Mbappé?
Non, il y a 8 et 4. But, là, l'enchaînement est top avec Ruiz.
Ah oui, ah oui, fantastique.
Il fait le geste juste devant le gardien, donc ça, c'est très très bien. Après, c'est vrai que même dans le temps fort parisien, je ne l'ai pas vu. Survoler offensivement.
Il y avait des zones de duel avec notamment le Tomba, notamment. Ouais, j'ai bien aimé ce duel là. Il y avait du sport.
Pas tout le temps passé, mais non. Après, ouais, il s'est un peu éteint sur la deuxième mi-temps, je trouve.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué. Enfin, parce que moi, j'ai découvert un peu ce soir qu'il joue aussi à gauche.
Il la tient bien celle-là, Nabil.
Non, c'est pour la suite, quoi. Ça m'intéresse. Et puis Ramos, sa relation avec Ramos, j'ai vu qu'il a essayé de le chercher une fois ou deux, notamment sur un centre un peu plongeant au deuxième poteau. Comme je ne sais pas quelle équipe on va avoir pour la suite de la Ligue des Champions, je m'interroge aussi.
Tiens, on va aller voir Giovanni Castaldi. Ah, Giovanni,
c'est minuit là, voilà. Est-ce qu'il a vieilli, Giovanni? Oh, il a pris un coup de vieux là. Hein, oh, là. Il a pris un coup de pelle là. Ah non?
On peut avoir son. Bien jeu. Sûr, j'ai pris un coup de vieux.
Combien de joueurs du PSG sont invités à sa soirée d'anniversaire, Giovanni?
Ah bah tous.
Ah d'accord.
Ah, bah, tous. Et ce soir, il y a une soirée d'anniversaire?
Bah bien sûr, bien sûr.
Ça n'a rien reçu.
Bah oui, bien sûr. Ah non c'est pas non c'est ah ouais. pas non il y a il y en a pas. Nabil, ne vous vexez pas, il y a pas de soirée.
Depuis gamin c'est comme ça.
Vous savez mémé, c'est votre anniversaire et vous l'avez compris un peu votre fête ce soir. Vous voulez nous parler de la production de Mbappé ce soir, plusieurs matchs ou des choses qu'on n'a peut-être pas distinguées nous devant notre télé.
Déjà, pour répondre à Étienne, il faut savoir que les joueurs de foot ne sortent jamais en boîte de nuit et surtout pas avec des journalistes. Donc, il n'y a personne à mon anniversaire des joueurs du Paris Saint-Germain.
Ah, donc
pour ce qui est de Kylian Mbappé, c'est un peu dans la foulée de ce qu'on avait vu à Noeta en Espagne. Je trouve que dans l'attitude, c'est un garçon qui est totalement différent. Alors, je ne saurais pas dire si c'est le coaching ou non de Luis Enrique, je ne sais pas. Mais en tout cas, encore ce soir, je l'ai trouvé très en canne. J'ai aimé son attitude sans ballon. C'est lui qui a ouvert le score, le but était d'une grande qualité avec un beau relais de Fabian Ruiz, mais je trouve qu'on voit un très très bon Mbappé. Alors 6 ou 7, je pense qu'on s'accordera tous, mais en tout cas dans l'attitude et je trouvais qu'on le voyait pas du tout sur les 5 premiers mois de l'ère Luis Enrique, et je trouve qu'on le voit de plus en plus dans le jeu, notamment dans les temps forts, et voilà, c'est hyper intéressant de le voir sous cet aspect-là.
J'ai le point de vue de président. Je vous vois, écoutez.
J'écoute.
Oui,
ben, oui. Après, c'est vrai que nous, on a peut-être pas vu toutes les. C'est son attitude pendant que le PSG n'avait pas le ballon, non, parce qu'il y a des angles où on peut-être
oui, Giovanni le
voit mieux parce qu'il y a le terrain entier, donc mais sûrement, moi j'ai fait confiance à Giovanni, qui est un expert. Et qui progresse de jour en jour, lui
aussi. Ouais. Pas pour la saison prochaine, Giovanni, c'est pas soirée,
t'hésites
pas.
Ah,
c'est bien là, il est bien.
L'année prochaine sera encore meilleure.
Ça sera encore mieux. Merci, Luis Enrique, Mikou. On a beaucoup prononcé le nom de Zaïre Emery. Il était à un poste inhabituel ce soir, arrière droit, notamment position défensive. Vous lui mettez combien? C'est 5-8 la moyenne de Zaïre Emery, c'est nos téléspectateurs. Il y a l'effet chouchou. Bah, c'est 5 hein. Ah ouais. Il a la moyenne 5 aussi, c'est moyen. C'est satisfaisant,
bah, mon 6.
Moi, je l'ai trouvé.
Pas quand même ma peur, du coup.
Je l'ai trouvé en grande difficulté à droite. C'est vrai qu'individuellement, il a pris le bouillon sur un poste qu'il ne maîtrise pas. En revanche, je l'ai trouvé qu'au milieu, parce que finalement, dans son jeu et dans le positionnement que lui fait prendre Luis Enrique, il est aussi milieu de terrain. Il n'est quand même pas que arrière latéral droit. Et que quand il est milieu de terrain, et ce soir, il a été très bon dans ce rôle-là. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il continue encore à progresser. C'est-à-dire qu'il joue vraiment la tête levée. Il regarde pas le ballon. Je trouve que sur le jeu de dribble, il progresse aussi. Il fait des passements de jambes. Il élimine. Il en a fait une dans la surface où finalement il marque pas, mais il n'est pas très loin.
Non, mais il a
mis que 5.
Là, c'est la première fois que je vois faire ça.
Il a mis que 5.
D'habitude, vous avez votre idée. Et là, c'est vrai que les arguments arrivent.
Non, mais il a failli mettre un super but aussi, quand même.
Ouais, aussi.
C'est sans un arrêt exceptionnel du blessé.
Mais en fait, si on doit faire des critiques sur son match, c'est plus critiquer Luis Enrique, son utilisation, en fait, sa position de départ.
Si je peux dire un petit truc,
vous avez l'impression d'être baïonné ce
soir? Non, j'arrête pas de la ramener.
Je suis
en flou. Non, il n'y a pas de problème.
Allez,
non, ce que je veux dire, c'est que Hakimi est suspendu pour le match aller de quart de finale de Ligue des Champions. Ouais. Et ça peut expliquer aussi les raisons pour lesquelles Luis Enrique, il tente de préparer Warren.
Bonne info.
Bah oui.
Bonne info.
Eh oui.
Et Mikele, ça serait intéressant de voir l'aller justement s'il si il le met là.
Si c'est Warren qui met, parce que tu fais pas, à mon avis, un quart de finale aller de Ligue des Champions avec Solaire. Hein.
Mais il mettra pas Mukele.
Il y a peu de chance. Ou alors il faut qu'il commence à le mettre maintenant. Donc je pense qu'il est en train de préparer Warren. Et donc forcément, un quart de finale de Coupe de France contre Nice, c'est.
Ouais, bah écoutez, mais c'est quand même un petit peu flippant ce
faut pas jouer
dans les temps faibles. Il a vraiment été muselé par Barre, par Boga, voilà, il y a eu c'est sur les zones de 1 contre 1
dès que ça devient spécifique.
Bah oui, mais
là, comme disait Étienne, effectivement dans les ressorties et dès que le PSG est dans le sens de la marche, forcément il y avait des choses intéressantes dans le replacement, dans le début d'attaque de Nice aussi. Mais dès qu'il y avait du 1 contre 1 spécifique arrière droit, forcément
c'est très étonnant, parce que moi je le trouve hyper tonique sur les jambes. Tu vois, quand il est au milieu.
Puissant,
hyper puissant physiquement.
Je te dis vraiment dans les
très toniques dans les
arcs.
Donc sur ce poste-là, tu te dis, il peut réagir, tu vois, dans ses attitudes. Si t'as un mec comme Boga qui prend gauche-droite, tu peux réagir. Mais je le trouvais dépassé, justement.
C'est vraiment très spécifique.
Oui.
Je sais qu'avec ton talent, toi, t'as toujours joué dans l'axe, les yeux levés.
Je pouvais jouer latéral aussi. J'ai laissé la place aux autres.
Personne t'y a mis quand même.
S'il y en a un qui m'a mis, il a été dégagé.
C'est vrai.
Malaisani.
C'est énorme.
3 derrière, il est du bon, tu vas jouer sur le couloir gauche.
Et là, il lui a fait les gros yeux. À la joue à Mikou, il lui a dit, mais toi, tu vas pas terminer la saison en entraîneur.
Quand vous avez appris que vous étiez piston,
Je suis sur Warren, je peux ajouter un truc.
C'est votre côté Colombo ce soir. Hein.
Encore
une dernière question.
Exactement. Comme le dirait ma femme.
Dis tout ce que tu as à dire.
Attends, on te donne tous les thèmes. Alors après, c'est de l'Atlético.
Arrêtez de la bisuter.
J'ai les reins solides. Warren, il a été souvent félicité par Luis Enrique en conférence de presse sur sa science du placement et sur sa compréhension de où il devait se placer dans le match. Et c'est pour ça que je lui ai mis que 6 ce soir. C'est parce qu'il y a eu des moments dans le match où, de ce point de vue-là, il a complètement flotté. Par exemple, il y a un moment où, en fait, il est juste devant la défense, mais il s'est mis, si on se met dans le sens de vers le but adverse, il s'est mis à gauche de Vitinha. Et en fait, il y a un joueur niçois qui arrive dans son couloir, là où il devrait être, et il se retape une course, et il arrive trop tard, évidemment. Donc, en fait, le truc que Hakimi arrivait super bien à gérer en début de saison, de repiquer au milieu et de revenir à son poste de piston,
il a fait toute sa vie.
C'est pas encore quelque chose d'évident pour lui, c'est pas acquis, et il y a eu des moments où on a vraiment senti
c'est pas Hakimi.
Oui, c'est pas Hakimi. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, défensivement, Hakimi non plus,
il a quand même en 1 contre 1, il n'est pas non plus... C'est son anniversaire, il aura droit à son dernier mot. Bah oui. Voilà, c'est Giovanni. Lui voulait nous parler de Nuno Mendes, Giovanni.
Il a ouvert la chemise, hein, de plus en plus, elle s'ouvre, sa chemise, dis donc.
Il a chaud.
Parce que Nuno Mendes, lui, est invité.
Ouais. Voilà. j'ai très chaud. J'ai très chaud, Jo, c'est pour ça. Je voulais juste dire un mot de Nuno Mendes, puisque il revient, il a été titulaire en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Alors lui, il nous dit qu'il n'est pas à 100%, mais dans la seconde période qui a été plus compliquée du Paris Saint-Germain, je trouvais que lui, il avait monté d'un niveau. On a eu 2-3 percées à la Nuno Mendes extrêmement intéressantes quand il a sorti les cannes. C'est aussi intéressant de voir comment il s'adapte au côté 3-3-4 de Luis Enrique, où il se réaxe. Il a la position axe gauche en défense pour pouvoir se projeter. Je trouve qu'il a assimilé bien tactiquement ce que lui demande Luis Enrique, et que ça va être un des gros points chauds à surveiller du Paris Saint-Germain. Mais revenir comme ça aussi vite après une longue blessure, il a eu une rechute, coup de chapeau monsieur Mendes.
Merci beaucoup Giovanni, bon anniversaire encore, on vous embrasse et bonne soirée. C'est Lucas Blanchard qui a été sélectionné pour être votre capitaine de soirée. Voilà, bonne soirée à vous. Les images de la qualification du Paris Saint-Germain, voilà, pour conclure, avec vous Romain.
Le PSG qui rejoint le dernier carré de la compétition en Coupe de France donc, et qui affrontera Rennes en demi-finale, victoire 3-1 ce soir face à Nice. En quart de finale, ouverture du score de Mbappé, superbe 1-2 dans la surface avec Fabian Ruiz qui va ensuite se muer en buteur sur cette erreur de Marcin Bulka. Dembélé récupère le ballon et sert Ruiz légèrement en retrait. Ça fait 2-0 pour le PSG. Quart d'heure compliqué pour le PSG juste avant la mi-temps qui va aboutir au but de Laborde. 2-1 à ce moment-là. Et Beraldo va redonner 2 buts d'avance au Paris Saint-Germain. Victoire donc 3 du Paris Saint-Germain. On le rappelle qu'il n'a plus gagné la Coupe de France depuis 2021.
Ouais. La suite de votre minuit info. L'OM en Espagne, les Marseillais affrontent Villarreal. Demain, 8e de finale de la Ligue Europa. Demandez le programme donc.
Les Marseillais ont 1,5 pied en quart de finale de la Ligue Europa. 1 pied et 4 orteils même après leur victoire 4-0 à l'aller au Vélodrome jeudi dernier. Mais, sait-on jamais, un club français vainqueur 4-0 à l'aller, renversé au retour par un club espagnol, ça c'est déjà vu, il paraît. Mais du coup, se pose la question de la façon d'aborder le match. Est-ce que l'OM doit y aller pour gagner ou pour assurer? Est-ce que ce sera en faisant tourner ou non? Candice Roland est déjà à Villarreal. Candice, les Marseillais doivent faire avec un gros calendrier.
Bonsoir. Ce jeudi, ce sera le 4e match de l'OM en 11 jours. Alors évidemment, la question de la fraîcheur physique est centrale pour Jean-Louis Gasset et son staff qui ont vu des joueurs émoussés, notamment par la deuxième période face à Nantes. Ils les ont trouvés entamés physiquement. Et puis, il faut rajouter aussi que les blessures, les suspensions des dernières semaines ont empêché un turnover plein pour faire reposer, ci et là, certains joueurs. Donc cette question de la fraîcheur physique, évidemment, sera au cœur de la réflexion de Jean-Louis Gasset pour son 11 ce jeudi face à Villarreal. Je vous propose de l'écouter au micro de Charlie Courant.
On va mettre les joueurs les plus frais. Ce matin, c'était le dernier entraînement. Il y avait encore quelques séquelles, on dira, physiques de la débauche d'énergie de la deuxième mi-temps de Nantes. Donc, vous voyez, Ismaïl a dit on n'a pas mis l'équipe en place. Parce qu'il fallait ce matin se faire une idée des joueurs qui étaient aptes à débuter le match. Mais je donnerai l'équipe que demain matin.
Stéphane Lannoy, licencié de la fédération, le responsable de l'arbitrage professionnel a reçu sa lettre.
Il n'aura pas résisté à la vague de contestation contre l'arbitrage français depuis quelques semaines, depuis même le début de la saison quasiment. En fait, depuis plusieurs semaines, son avenir était compromis.
C'est l'homme en écharpe là.
Exactement. Et donc, nouvelle info, l'équipe aujourd'hui, Stéphane Lannoy a reçu sa lettre de licenciement de la part de la Fédération Française de Football. Il avait passé son entretien préalable le 4 mars. Sébastien Moreira, qui est le responsable du VAR, devrait lui aussi quitter son poste. Étienne, c'est vous qui avez sorti l'info et suivi le dossier. Du coup, c'est quoi la suite désormais pour le poste de Stéphane Lannoy?
C'est très simple. C'est Anthony Gauthier, qui est le directeur technique de l'arbitrage, qui va prendre en charge la totalité, c'est-à-dire le secteur pro et tout le reste. Et puis, à la fin de la saison, ils chercheront et ils trouveront un remplaçant à Stéphane Lannoy. Les clubs pro qui étaient en faveur de Lannoy et pas en faveur de Gauthier vont regarder ça de près et ils voudront être consultés sur celui qui sera choisi.
Les matchs de Ligue des Champions, la qualification de Dortmund et la qualification de l'Atlético Madrid dans quelques minutes. Mais pour l'heure, on fait un pas de côté. Première Ligue avec un match de dingue ce soir entre Bournemouth et Luton, le petit pousset.
C'est un match en retard de la 17e journée de Première Ligue. Et comme souvent en Angleterre, on a eu un scénario complètement fou. Luton, le promu, est à l'extérieur et mène 3-0 à la mi-temps avec ce but de Ross Barkley. Sauf que Bournemouth va tout renverser en 15 minutes en seconde période. Là, c'est le but du 3-1 de Solanke. Il est magnifique. À la 64e minute, l'égalisation de Semenyo. Et ça donne 3 partout. Et à la 83e minute, doublé pour Semenyo, le Vitality Stadium qui explose. Bournemouth mené 3-0 à la mi-temps, l'emporte 4-3 ce match complètement fou.
Quel remontada. C'est officiel, on connaît les critères de sélection et les modalités de vote.
Ça
pour le
bien,
porte-drapeau des JO de Paris.
Entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il y aura donc 4 porte-drapeaux, 2 pour chaque jeu, 2 pour les JO et 2 pour les Jeux Paras. On vous expliquait hier les critères, il faut avoir déjà participé aux Jeux, ça c'est la première des choses, mais sans avoir déjà été porte-drapeau. Donc ces deux critères-là, par exemple, ils excluent Kylian Mbappé, Antoine Dupont, Teddy Riner ou encore Clarisse Agbegnénou, qui étaient les noms qui revenaient le plus souvent. L'athlète doit être irréprochable, par exemple, pas avoir connu une affaire de dopage. Et enfin, les deux porte-drapeaux des JO ne peuvent pas être issus du même sport. On écoute à propos de tout ça la réaction de David Lapartien, le président du CNOSF, qui précise les modalités de vote des porte-drapeaux. Là aussi, c'est inédit.
Le vote se fera, et ça c'est pour la première fois, par l'intégralité des athlètes. Élément très positif, pour la première fois de l'histoire, la totalité des athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques voteront. Et donc on a souhaité cet élargissement le plus complet possible, pour faire en sorte que, quelque part, les porte-drapeaux soient vraiment celui des athlètes.
Voilà, pour porte-drapeaux, à propos de JO, information à consulter actuellement sur le site L'Équipe. Les JO s'éloignent pour Kylian Mbappé, information et article signé Vincent Deluc.
Qu'est-ce que tu sous-entends?
Je ne sous-entends rien, allez sur le site L'Équipe, mais continuez de regarder L'Équipe du soir. Merci beaucoup, Kylian Poupoun. La suite de l'aventure de Gaël Monfils et Agnolels, c'est malheureusement terminé face à Casper Ruud.
On y a cru face au 9e joueur mondial, Casper Ruud, triple finaliste en grand chelem. Gaël Monfils, notamment excellent dans la première manche, qu'il a assez largement dominé, remporté 6-3 en une demi-heure de jeu. Mais Casper Ruud est progressivement revenu. Il a remporté la deuxième manche au tie-break. Et finalement, il a fait la différence dans le set décisif pour l'emporter finalement 6-4 en à peu près 2h30 d'une grosse bagarre. Vous avez vu ce point absolument magnifique. Et donc, Casper Ruud, il affrontera le vainqueur du match entre Nardi et Paul en quart de finale.
Oh, c'est pas Paul Nardi. Hein. En tennis de table, ça se passe très bien pour les Français au grand smash de Singapour.
Le grand smash, effectivement, en tennis de table. Félix Lebrun chez les hommes et Pritika Pavad chez les femmes se sont qualifiés en simple. 2 victoires assez tranquilles. Ils rejoignent les 8e de finale. Et en double, les frères Lebrun rallient les quarts de finale après avoir battu une paire autrichienne. Et regardez ce point de dingue où Alexis Lebrun va changer de main en plein milieu de l'échange. C'est assez fou. Ouais.
Trop vite.
Il n'a pas de revers. Hein.
Comme ça, tu vois.
Ça n'est pas bon. Il est pas bon. À 3 jours de Milan Sanremo, Alberto Bettiol a remporté la semi-classique Milan-Turin.
Superbe numéro de l'Italien dans son pays sur cette semi-classique donc de Milan-Turin, le vainqueur du Tour des Flandres 2019 qui s'est imposé en solitaire. Il a d'abord placé une grosse attaque à environ 30 km de l'arrivée alors que les UAE avaient tenté de faire le ménage juste avant. Mais Bettiol a surpris tout le monde. Il est parti tout seul et il a tenu jusqu'au bout pour finalement s'imposer avec 7 secondes d'avance sur 2 coureurs UAE. Donc il est en forme d'ici ce week-end avec Milan-Sanremo, premier monument de la saison.
Demain, chez l'équipe direction Canmore au Canada pour la dernière étape de la saison de biathlon Snif. C'est déjà terminé.
Eh oui, mais ça peut se terminer en beauté car il reste 3 épreuves aux Françaises pour tenter d'aller chercher le gros globe de cristal. Justine Brezaz-Boucher, Julia Simon et Lou Jean Monod sont encore en course pour remporter le classement général de la Coupe du Monde. Elles sont respectivement 3e, 4e et 5e avant les 3 dernières courses. La première, c'est demain, le sprint. Vous les voyez ici à l'entraînement, les Françaises. Et les deux qui les devancent sont Ingrid Tendrevold, la Norvégienne, et Elisa Vitozzi, l'Italienne. Ce ne sera pas forcément évident. Mais c'est faisable.
Et vendredi, rugby, le crunch des U20 France-Angleterre sur la chaîne L'Équipe.
Et c'est tout aussi important chez les petits que chez les grands, le crunch. Donc France-Angleterre, dernier match du tournoi Destination U20. Les Français qui veulent être les premiers à faire tomber les Anglais dans ce tournoi U20. Ils pourraient même les empêcher de remporter la compétition. C'est clairement l'objectif. Ils ont rejoint Pau aujourd'hui, c'est le lieu du match. Et on le rappelle, ce match c'est vendredi. Donc ce sera à 20h50 sur la chaîne L'Équipe, le crunch des moins de 20 ans.
Page Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid a renverser l'Inter ce soir à l'issue d'un match ébouriffant.
Exactement, avec beaucoup de rebondissements, avec les Nerazzurri qui ont ouvert le score dans ce match qui l'avait emporté 1-0 à l'aller à Giuseppe Meazza. Magnifique action collective dans la lignée de tout ce que produit l'équipe de Simone Inzaghi depuis le début de saison et c'est conclu par Federico Di Marco. Ça fait 1-0 pour l'Inter. Égalisation de l'Atletico. Griezmann est en embuscade. C'est Pavard qui a raté son intervention juste avant. Magnifique passe de Coquet pour Depay dans la surface. Ça fait 2-1 pour l'Atlético à la 87e minute. Les deux équipes filent en prolongation. 0, pas de but en prolongation. Et au tir au but, c'est l'Atlético qui va faire la différence à domicile. 2 parades magnifiques d'Oblak. Et vous avez vu ce pénalty totalement raté par Lautaro Martinez.
J'ai une petite surprise pour commencer. On va aller voir une amie de l'équipe du soir. Elle était présente ce soir. Regardez qui est là. Elle a vu le match. Et dites-moi, vous sortez pas beaucoup quand vous êtes à l'équipe du soir, mais alors là, vous êtes sorti et ce match était ébouriffant. Racontez-nous ce qui s'est passé parce que nous on suivait Paris-Nice, on suivait également le Borussia Dortmund contre le PSV. Le match a été exceptionnel.
Mais vous n'imaginez même pas. Regardez, j'ai plus de voix. Vous n'imaginez même pas l'ambiance qu'il y avait au stade. Déjà l'Inter marque en premier. Et à ce moment-là, il y a tout le parcage visiteur qui allume les flashs de leur téléphone, ok ? Provocation. Dès que l'Atlético a égalisé, tout le stade a allumé ses flashs en chantant « Éteignez vos téléphones, éteignez vos téléphones ». Tout le public avec qui j'étais, les gens avec qui j'étais m'ont dit « Ça n'est jamais arrivé ». Ensuite, quand il y a eu les prolongations, pareil, ils ont remis les flashs. Donc c'était un concours de flashs, comme ça, permanent. Et ensuite, quand il y a eu la séance de surobus, mais je vous explique même pas, en fait, on ne s'entendait pas. Donc pour parler, il fallait crier, et voilà pourquoi je n'ai plus de voix. Voilà pourquoi je n'ai plus de voix. Et là, je suis dans le parking, je suis en train de vous parler, le parking des joueurs, voilà, qui sont en train de regagner leur voiture, et qui rentrent chez eux tranquillement, ils sont très contents, ils ont la qualification.
Je pensais que vous étiez chez votre concessionnaire, voilà. juste, évidemment, Virginie, ça joue un peu, mais la qualification de l'Atlético, pour vous, elle est logique par rapport à ce que vous avez vu? Ou alors c'est ric-rac, et après, on peut servir un discours par rapport au résultat final? Il y a une forme de logique ou pas, d'après ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté sur le terrain, sur place?
Alors, en première période, pas forcément. Honnêtement, pour moi, ils essayaient de changer leur jeu, c'est-à-dire qu'ils essayaient de ne pas faire un bloc bas avec des transitions rapides. Ça ne marchait pas nécessairement. On sentait que l'Inter, au milieu du terrain, ça les mangeait. Donc, pour moi, c'était compliqué. Ensuite, en seconde période, on les a vus un petit peu se relever. On a vu que Riquelme, son entrée, a fait beaucoup de bien. L'entrée de Depay, je ne vous en parle même pas. Il a brillé, l'ancien Lyonnais, de par son apport, son agressivité, son envie, sa vitesse. Griezmann était un petit peu cuit. Dès le début de la prolongation, on a vu qu'il ne s'en sortait pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu un changement, que Simeone a décidé de le sortir. Et voilà, je pense que l'Atlético a réussi à se qualifier ce soir, mais par son envie. Pas forcément parce qu'ils étaient supérieurs, non. L'Inter s'est procuré quand même des occasions. L'Atlético aussi, mais ce n'était pas forcément des grosses occasions. De part et d'autre, ça se neutralisait. Donc pour moi, c'est vraiment c'est à l'envie que c'est allé. Et le public a vraiment poussé. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. En tout cas, moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Virginie, j'ai juste une dernière question. Est-ce que vous pouvez juste répéter cette phrase ? Je suis passé chez Soch. Allez-y, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc au niveau du micro. Allez-y.
Je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch.
D'accord, très bien. Non, il y a juste un petit problème. C'est l'image est formidable, mais juste le son est un peu dégradé. Le son vous fait une forme de suintement comme ça. Voilà, je suis désolé, j'ai cité cette marque. Il faut que j'en cite d'autres. J'espère qu'on pourrait m'aider.
Mais est-ce qu'elle sera rentrée
Orange,
à temps?
Merci beaucoup.
Est-ce qu'elle sera rentrée à temps pour la fête d'anniversaire de Giovanni Castaldi?
Ah bah c'est cette nuit, donc à mon avis, non, c'est.
Mais évidemment, je ne manquerai pour rien au monde. Je ne manquerai l'anniversaire de Giovanni Castaldi. Je vous le dis.
Castaldi, d'accord. Très bien, merci beaucoup. Je vous apprends beaucoup. Très, très fort, ma chère Virginie. Merci de nous avoir en tout cas fait visiter les coulisses du stade de l'Atlético Madrid. Et merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir raconté.
C'est quand même beaucoup le parking.
Mais les coulisses, comme ça, c'est toujours intéressant. Merci Virginie, on vous embrasse. C'était. Comme d'habitude, parfait. C'est une surprise énorme, non, quand même, non, cette élimination de l'Inter. Parce qu'on les citait quand même, non?
Surprise énorme, non.
Non, je trouve.
Surprise énorme, c'est comme si l'Atlético n'était pas une équipe qui était capable de mettre de l'intensité et de hisser son niveau de jeu. Ce qui est vrai, c'est que l'Inter était quand même plutôt favori parce que depuis le début de la saison, ils sont impressionnants.
Ouais. L'Atlético se retrouve face au gros aussi en Espagne. Mmh. En Espagne, sur le Real, à chaque fois, ils font des bons matchs, le Barça aussi. Ouais, et là, moi, je trouve que ce soir, on les a retrouvés surtout chez eux. À l'extérieur, ils ont plus de mal.
Une seule défaite cette saison.
La grosse surprise, c'est peut-être que l'Inter, quand on regarde le match, qu'ils font le plus dur en marquant. Et Oblak fait encore deux arrêts, encore 1-0, 1-0-0. Il les laisse dans le match. Et là, on se dit, Madrid, ils sont perdus, quoi. Mmh. Et d'un coup, il y a ce, comme souvent avec eux, effectivement. Ce truc là où d'un coup il te renverse.
L'un ou l'autre ce soir qui passe, ça se joue à rien. Quoi. C'est vraiment équilibré. Ça.
Vous avez pensé à un moment que l'Atlético avait trop raté d'occasions disant. C'est pas des ratés.
Franchement,
mais
c'était des deux côtés. Non, mais on pense à celle de Thuram. Celle de Thuram avec la passe de Lautaro Martinez où effectivement il l'envoie. Il ne teste même pas le gardien puisqu'il l'envoie sur le parking. Il exagère un peu. Mais je suis quand même d'accord avec Étienne. L'Atlético Madrid, c'est une équipe qui fait galérer tout le monde. Je les ai vus contre Manchester City. Manchester City, ils ont transpiré pour les battre. Donc, ils sont spécialisés dans ce genre de configuration. Même si en championnat, ils sont un peu moins bien et c'est un peu étonnant. Parce qu'à domicile.
Ce soir, Nabil, il y a plus que ça. C'est pas qu'une équipe qui a défendu et qui s'est accrochée.
Non, mais je suis pas en train de dire ça. Non,
mais tu dis quoi alors?
Non, je suis en train de dire qu'en fait, quand Mémé dit c'est une surprise énorme. Attends, mais l'Inter, l'année dernière, ils arrivent masqués, ils vont jusqu'en finale. Là, il fallait qu'ils assument leur statut de favori. Ils ne l'ont pas fait. Mais en phase 2, c'est un adversaire qui est toujours compliqué à gérer. Quoi. Et ils ont mis un pressing qui était incroyable.
Demain.
Je veux dire, la pièce a l'air tombée du côté de l'Atlético.
Non, pas demain. On va continuer de parler de cette Ligue des Champions.
On est demain déjà.
PSG, Bayern, Real, City, Arsenal, Barça, Atlético Madrid et également qualification de Dortmund. On parle dans quelques minutes avec les images de la victoire de Dortmund et de la qualification contre le PSV 2-0. Les buts de Dortmund en quelques minutes. À tout de suite.
On parlera de Simeone.
Mes amis, vous aviez envie de revenir sur la qualification de l'Atlético de Madrid, donc contre l'Inter. Je ne vois pas pourquoi on a un habillage à l'italienne. C'est l'Atlético de Madrid qui est passé, mes petits. Enfin, non, je sais qu'en régie, ils aiment beaucoup cette musique. Umberto Tozzi, Gloria, exactement. Et vous voulez nous dire quoi, Nabil? Parce que vous ne dites pas que c'est une énorme surprise.
Non, mais moi, en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Que l'Inter soit favori, pas de souci qu'il fasse une saison extraordinaire, que leur jeu est huilé et tout. Mais en face, il y a quand même un spécialiste de la compétition, un empêcheur de tourner en rond, un poison permanent. L'Atlético Madrid avec Diego Simeone, qui est un spécialiste quand même pour monter des équipes dans cette compétition. Et puis, je suis désolé. Je veux dire, si c'est le PSV Eindhoven qui sort l'Inter, ouais, je vous dis, c'est un énorme exploit. Mais attendez, vous avez vu le casting du côté de l'Atlético? Griezmann, c'est un joueur de troisième zone. Il n'y a pas non plus l'infiniment grand contre l'infiniment petit. Donc pour moi, je pensais que l'Inter allait passer. Pour moi, l'Inter était favori. Je rappelle quand même qu'à l'Atlético, à domicile, ils sont intraitables depuis le début de saison. Ça, personne ne l'a dit autour de ce plateau. Bah, moi, pour moi, l'Atlético, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe de C1. C'est une grosse équipe de C1, c'est tout.
Si l'Inter était passé là au pénalty, tu aurais dit la même chose?
Pardon?
Non, mais parce que l'Inter a 13 victoires d'affilée aussi, on peut te donner les stats.
Mais j'aurais dit, se sont sortis d'un traquenard face à une très bonne équipe, c'est tout.
Mais dans la forme du moment, on pensait. Bon, enfin.
Non, mais vas-y, je t'écoute. Pour les autres.
Moi, perso, je pensais que l'Inter.
Mais cette équipe de Matteo
se passerait.
Elle a changé, cette équipe.
Et je suis surpris que l'Atlético ait retrouvé ce niveau dans ce match aussi important.
Mais à l'aller,
ils doivent
1-0, ils les laissent en vie.
Oui.
Eh bien, ils les ont pas ratés.
Elle a changé, cette équipe, un peu. C'est-à-dire que. À une époque, c'était presque une caricature, l'Atlético. C'était vraiment l'équipe qui te rentrait dedans, où tu faisais le défi physique et quoi. Là, je la vois jouer au ballon aussi. Et le 2-1, c'est à la 87e, une action construite avec une passe incroyable pour un contrôle incroyable. Enfin, c'est pas du kick and rush, tu vois. C'est le but à la fin du match, c'est un but construit. Et je trouve que dans cette équipe-là, il y a quelque chose de nouveau. Il n'y a seulement la dimension physique.
Je ne suis pas d'accord. En fait, c'est une équipe qui est capable de faire les deux. Mais qui est capable de sortir des matchs comme ça. C'est-à-dire avec, en effet, on se demande quand on les voit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas comme ça tout le temps. Ah, oui. Et en fait, non, ils ne joueront jamais comme ça tout le temps. Et l'ADN, il revient donc immanquablement. Donc ils ouvrent un peu plus qu'ils le faisaient à une époque. Mais quand ils vont à l'extérieur sur un match à élimination directe, ils remettent un peu le bus quand même.
Elle a des phases de jeu plus jolies quand même.
En fait, là, ils étaient quoi en 3-5-2 comme leur adversaire. Sans le ballon, je crois que ça passait en 5-4-1. Donc en fait, il sait exactement ce qu'il fait. Il y a des joueurs de couloir. Witzel, il lui a inventé un poste derrière parce que Jiménez n'était pas là. Et après, l'association devant, je veux dire Griezmann-Morata, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas de la division européenne.
Offensivement, on est passé à beaucoup de monde quand il fallait aller chercher le deuxième but, sur la fin du match. Ce qu'il a très bien fait, Simeone, il faut le féliciter. Et après, moi, je trouve ce soir, il faut mettre l'accent sur Griezmann. Griezmann, il a été énorme ce soir encore.
Bien sûr.
Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, l'Atlético a réussi à le faire.
Mais moi, il y a la culture, c'est quand même ce que dit Nabil, qu'on a commencé à dire aussi. C'est de la culture de ce club-là, de cet entraîneur-là, de ce public-là qui fait que. Tu sais très bien que quand tu vas aller jouer là-bas, mais tu vas souffrir. Cadeau, hein.
City, je reviens, ça fait 10 fois que je le dis, mais City, qui se déplace à l'Atlético, ils ont dû gagner 1-0. Ils ont galéré comme jamais. Et on parle de Manchester City.
Qui saute plus du côté de la Bundesliga, cher à Johan Miko, il y aura un représentant, deux représentants, le Bayern et Dortmund. Dortmund qui s'est imposé 2-0 contre le PSV, mais le score est un peu trompeur par rapport au contenu du match, c'est ce que nous expliquait Johan.
Non, pas trompeur, moi je pense que Dortmund devait gagner. Mais par contre, un score 4-3. 50, ça aurait été assez logique.
Dans le droit à l'info, c'est 2-0.
Exactement. Et en tout cas, il y a eu un partout à l'aller donc entre les deux équipes. Et au match retour, le Borussia Dortmund a marqué rapidement. C'était une bonne idée pour éteindre les velléités du PSV Eindhoven. Le but de Jadon Sancho, une frappe à l'entrée de la surface au premier poteau. 2 minutes 52 de jeu et l'Anglais qui frappe. Le PSV qui va avoir pas mal d'occasions, notamment en seconde période. Dortmund en a eu aussi, mais à l'arrivée, ce sont les Allemands qui font la différence. Une glissade et Marco Reus file au but, seul à la 95e minute. 2-0 pour le Borussia Dortmund, qui sera donc l'un des deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça ajoute quelque chose de très très important. Le fait que le PSV Eindhoven soit éliminé ce soir, ça assure la 5e place à l'indice UEFA de la France pour cette saison. Ça signifie que pour la saison 2025-2026, la France aura de nouveau 3 qualifiés directs en Ligue des Champions et un barragiste. Il y aura donc 4 places, on va dire, en Ligue des Champions, comme pour la saison prochaine. C'est une très bonne nouvelle pour la France.
Une très bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un représentant français donc, dans les quarts de finale. Ça, on le sait depuis la semaine dernière. Donc, ça, c'est le PSG, Bayern, Real, City, Arsenal, Barça. Depuis ce soir, Dortmund et l'Atlético de Madrid. Le tirage au sort, ce sera vendredi. Ça sera à suivre sur notre antenne. Quel tirage au sort aimeriez-vous pour le PSG, mes amis? Quel tirage au sort aimeriez-vous pour le PSG en quart de finale? Pia, vous nous dites?
Attends, j'ai ma petite liste.
Bayern, Real, ouais. City, Arsenal, Barça, Dortmund, alors, Atlético de Madrid.
Surtout pas le Barça, non, parce que je n'ai supporte plus. Oui. moi, je vais dire Arsenal, ouais, ou Dortmund.
Allez, Pia, Arsenal ou Dortmund. Ok. Ah. Bah oui, je note. Nabil.
À Manchester City pour juger un peu de la progression de l'équipe d'Enrique.
Ouais, d'accord. Nabil, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour provoquer. Hein.
Je dirais Barça pour faire plaisir à Pia.
Il y a un truc entre nous, Jérôme. Je sens.
Veut le Barça. Étienne.
Moi, je dis Dortmund.
Dortmund, efficace, simple, c'est classique. C'est lui, Étienne Moati. Et enfin, Monsieur Micou.
Je pense que Dortmund, c'est un peu en dessous.
Donc, c'est le reste. Ouais. Donc c'est Dortmund en fait.
Ah bon ?
Ah non, du coup,
et si c'est, et si oui, c'est un fan du foot allemand qui le dit, ça doit être vrai.
Non, ouais. Arsenal.
Sur l'ensemble, si tu juges toutes les équipes, je pense que City, ça va être compliqué. Le au-dessus. Real, ça va être compliqué.
Au-dessus.
L'Atlético, je pense que ça va être compliqué. Un double match d'enfer.
Je suis en train de faire un classement
Le Bayern, moi je trouve qu'ils ils sont pas bien depuis un moment, mais ça revient.
Donc c'est la fausse bonne idée, clairement.
Ouais. Bon, et le Barça, je pense aussi. C'est peut-être un bon tirage pour le PSG. Le Barça et Dortmund.
Parce qu'Arsenal,
ça, je trouve qu'il revient
donc,
bien. Quoi.
Donc, les amis, là, si je fais les comptes, dans le top 8, le PSG est, on va dire, à peu près.
Non, mais je dis pas qu'ils sortent.
Hein. Non.
Non, mais ça va être vraiment des matchs compliqués.
Moi, je pense que.
Quoi qu'il arrive, oui.
C'est tête de série numéro 6, là, le PSG.
Je pense que c'est une bonne analyse. C'est un PSG. Niveau un peu peut-être du Barça, peut-être un peu au-dessus de Dortmund, voilà, mais donc évidemment plutôt dans les derniers des quarts de finalistes. Moi je rejoins Joe, enfin pour moi Dortmund, alors évidemment on verra à la fin, mais pour moi Dortmund c'est l'équipe la plus faible. Si
c'est pas la plus faible, mais c'est un jeu qui correspond bien peut-être au PSG.
Ouais, mais
par
pas
rapport
seulement.
À ses ouvertures,
ça c'est vrai, même au niveau de son effectif quand même. On parlait de l'Atlético et tu le disais, quand tu fais rentrer Memphis Depay dans les dernières minutes pour enlever une décision, etc. Oh. À Dortmund, je trouve qu'il y a moins quand même de profondeur de banc. Il manque quand même des joueurs vraiment très forts, très forts.
Et ils ouvrent le jeu surtout.
Alors l'Atlético, ils vont rentrer dedans.
Là, au niveau de la dureté, surtout pas l'Atlético.
Et surtout pas le retour.
Il n'y a aucune équipe en Europe qui a envie de rencontrer l'Atlético.
Ah non, sûr et certain.
Luis Enrique dit aucune équipe a envie de nous rencontrer. C'est ce que nous dit Luis Enrique.
Il dit aussi
que le Barça, on va le provoquer. Regardez.
Non, c'est parce que déjà, je pense qu'au niveau du niveau, t'es largement les taper. Et puis qu'en plus, ça reste une affiche. Ouais, mais contre Dortmund aussi. Hein.
C'est un quart de finale.
Dortmund, Joe, il n'est pas en train de nous dire qu'on va la mettre 4-4. Hein, non, Dortmund, tu vois. Mais donc, je pense que dans le classement des 8 qui restent, Dortmund et Barça, ça me semble être les deux meilleurs tirages pour le PSG. Et en plus, Barça, l'avantage d'être une affiche, quand même. On reste sur une affiche de gala. Et pour si jamais des joueurs.
Ils ont beaucoup de blessés au Barça.
Voilà, donc Barça Dortmund, mais Barça pour l'affiche quand même.
On a parlé du Barça, on a parlé de Dortmund. Pierre, vous aviez deux choix. Je vais vous faire parler de votre premier choix, c'était Arsenal, parce que Dortmund, je pense que vous allez à peu près marcher sur les plates-bandes et le sillon tracé par nos.
Je ne suis vraiment pas la bonne personne pour parler d'Arsenal, parce que je ne regarde pas la première ligue, donc je vais passer la main là-dessus. C'était juste que c'était plus exotique et que je voulais pas un club espagnol. Bah, évidemment.
nous, on regarde un peu la première ligue. Ils sont leaders de première ligue. Alors de temps en temps sur les matchs européens, ils ont quelques trous parce qu'ils ont un peu perdu de sa culture européenne, mais en tout cas sur le potentiel et sur le jeu, c'est une équipe qui peut être impressionnante par moment.
Ça dépend. Après, je pense qu'il faut, là je parle que pour moi évidemment, mais cette année en Ligue des Champions, le PSG a moins de pression que les autres années parce qu'on a l'équipe la plus jeune des quarts de finale. On n'est pas censé gagner la Ligue des Champions cette année, c'est pas le projet du club a priori. Je pense que je peux pas
parler
pour tous.
Pas de la perte non plus le projet du club.
Mais il y a pas mal de supporters, pas tous, mais pas mal de supporters qui pourraient accepter l'idée que l'objectif de la saison soit pas la Ligue des Champions. Donc c'est des quarts de finale de Ligue des Champions, tout est possible et le PSG est capable de tout aussi comme les autres équipes.
Ouais. Bon, ce que vous propose Nabil, c'est la solution radicale, c'est PSG,
le mal d'en fait.
On
comme
y
ça,
va.
Au moins on sait.
Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi non, c'est pas
à un moment dans le football, ce qui compte, c'est les émotions et les souvenirs. Qu'est-ce qui marque les supporters de foot? C'est les exploits.
PSG City, vous pensez que ça va être
en un problème? Je ne dis pas qu'ils vont les passer. Déjà, je pense que City, sans Mahrez, ils n'ont aucune chance contre le PSG, mais ça, c'est autre chose.
Oui, ça en dit plus sur vous que sur City, mais allez-y. Et sinon?
Je pense que sur deux matchs, ils sont injouables.
Oui, donc c'est pour ça qu'il faut les retours.
Pardon. Ouais, donc quart de finale.
Alors, non, parce qu'ils souhaitent l'élimination du PSG.
Oui, nous faire un petit numéro, avoir la gonfle, voilà. C'est tout. Parce que non, PSG City, c'est
sur deux matchs.
Malheureusement, un enterrement de première classe.
Ouais, mais bon, dans le football,
j'ai tout est possible.
D'accord. Ouais, là,
ouais, voilà. Tout simplement.
C'est pour ça. Quoi. Ouais. On va pas faire le quiz à cause de ça.
Merci beaucoup. On va rater le quiz, mais petit. Ben non, on doit conclure dans quelques secondes. Les unes de l'équipe demain. Je dis les unes de l'équipe.
Absolument, il y en a deux, notamment, on vous en parlait tout à l'heure, c'est sur cette info sortie ce soir sur le site L'Équipe et qui sera dans le journal demain, sur Kylian Mbappé, pour qui, on va dire, la participation aux Jeux Olympiques semble aujourd'hui quelque peu disparaître ou devenir un petit peu difficile, en tout cas plus vite, plus haut, plus fort, mais plus loin des Jeux. Et il y a une autre, c'est par rapport à l'Olympique de Marseille, on le rappelle, qui joue son 8e de finale retour de Ligue Europa demain sur la pelouse de Villarreal. Pas de mauvaise surprise pour les Olympiens, on l'espère.
C'est quoi la musique,
Four and Blondes.
C'est Four and Blondes.
Comment, Nabil?
C'est de la pop.
C'est de
la pop. On a commencé avec Hold Up Tibasta et on finit avec
Four and Blondes.
Cette émission est excellemment produite.
J'ai l'impression que c'était plutôt de l'anglais pour vous. Il y avait quand même un problème. Non.
Pas produit, hein.
Ah ouais, français. D'accord, ok, très bien. Ok. Merci beaucoup. Demain, tirage au sort. Pas tirage au sort. Demain, c'est la liste de Didier Deschamps, Thierry Henry. Rendez-vous à 14h en direct sur la chaîne L'Équipe. On vous embrasse. À demain. Non, ne chantez pas, je...